BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, qui vous aide à devenir meilleur investisseur ou meilleure investisseuse. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, vous le savez, tous les jours entre 10h et midi. Et puis on est aussi en podcast. Salut à vous qui nous écoutez à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes lundi 22 avril 2024. Au programme, le Bitcoin, le jour d'après, le halving. On va faire le point, même si pour l'instant, rien à signaler au niveau du prix du Bitcoin. On va parler également des bourses américaines ce matin. Est-ce que c'est le calme avant la tempête? Il y a toujours, vous le savez, ces incertitudes au sujet du calendrier de la baisse des taux aux États-Unis. Il y a toujours les tensions géopolitiques, mais il y a aussi les résultats de société. Ça va être dense cette semaine et tout le monde attend les résultats de la tech US. Est-ce que les 7 magnifiques ou ce qui reste de magnifiques vont donner le la de la semaine et puis peut-être porter les marchés? Réponse avec Mathias Bacino de Trade Republic d'ici quelques minutes et puis avec l'ensemble de nos intervenants au cours de l'émission, notamment avec côté bourse Antoine de Pio Renext et puis nos deux traders pour le match des traders qui sont en train de se connecter. Il y aura aussi Nicolas Dose pour votre dose quotidienne d'économie d'ici une petite demi-heure. Et puis on va poser la question qui va nous occuper cette semaine, c'est-à-dire savoir si ça va continuer de baisser ou si 7 séances consécutives de baisse, ça suffit. Qu'est-ce qu'il faut attendre? La publication de résultats de la semaine à venir, pourvu que l'IA ne nous lâche pas, c'est ce que va nous dire Thomas Veillé d'investir.ch depuis la Suisse. Julien Ebenzal d'Advice va nous expliquer l'effet de disposition, c'est-à-dire prendre ses profits trop tôt et puis laisser filer ses pertes. On fera un petit peu de psychologie comportementale. Et puis, question-réponse du jour avec Alice Labou de Trecento AM sera: mon banquier me pousse à ouvrir un contrat d'assurance vie, mais j'ai peur de bloquer mon argent et de ne pas pouvoir en disposer si j'en ai besoin. Que faire? Réponse à 11h30. Et puis pour finir, on fera le point sur l'envolée des prix du pétrole. Envolée qui reste globalement inexpliquée par tous les fondamentaux classiques, si je puis dire. Mais on verra peut-être ce qui peut l'expliquer avec Jean-François Faure du groupe Au Coffre. Au programme, il y a vous, chers auditeurs, vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre. On vous salue, vous pouvez nous écrire. L'adresse est directe à bfmbusiness.fr ou bien m'écrire sur LinkedIn directement en message privé. On répondra notamment à Nicolas qui nous demande des conseils sur des actions plus offensives avec des revenus plus récurrents, comme Vinci par exemple ou Orange, dans un contexte de normalisation des marchés. À suivre, nous partons à Euronext faire le point sur le début de séance côté CAC 40.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision. Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Cher Antoine, on commençait pas trop mal en ce lundi matin, et puis ben, la tendance positive s'est inversée.
Oui, on recule désormais, hein, moins 0,11%, 8013 points, très curieux, hein, ce rebond totalement avorté. On avait pourtant de très bonnes indications en avant-marché, on est même allé jusqu'à plus 0,8% hein, sur la dernière heure avant l'ouverture des cotations. On a ouvert sur du plus 0,5%, et puis là, bah, on manque totalement de jus. À noter que les autres places européennes suivent un petit peu la même tendance, hein, l'Eurostock 50 perd 0,07%, on a du plus 0,19% quand même encore à Francfort, et puis le tableau qui était quasiment vide sur les baisses concernant le CAC 40, c'est rempli au fur et à mesure. ST Micro signe la plus forte baisse depuis le début de la séance. À l'ouverture, c'était la seule valeur en repli. Hein. Là, il perd 0,99%, on est à 36,35€. Mais à noter que le secteur du luxe, notamment, s'est complètement retourné. Alors, ça va être une semaine importante. On attend les chiffres d'activité d'Hermès et de Kering, notamment. Là, on a Hermès qui recule de 0,52% à 2308 points. On a L'Oréal aussi en repli de 0,98% à 440,60€. Puis des valeurs un petit peu plus cycliques qui piquent un peu du nez. Schneider Electric, moins 0,7%, on est à 206,90. Puis à noter Safran aussi, moins 0,44 à 205€. Sinon, on a pas mal de secteurs qui sont encore en pointe. Edenred en particulier qui gagne 4% à 45,48€. Hein, le titre décidément très en forme. Mais derrière, dans le même ordre d'idées, sur le SBF 120, on retrouve Elior hein, qui gagne 3,37% à 2,39€. On a Icade qui a publié de bons chiffres ce matin. Le titre gagne 3,78% à 25,26 €. Et puis à noter sur le CAC 40 aussi Unibail Rodamco Westfield, dont on attend le chiffre d'activité cette semaine, hein, qui gagne 1,8% à 76,44 €. Peut-être un petit peu de nervosité, d'attentisme des marchés par rapport à toutes ces publications d'entreprises. Encore une fois, qu'on attend, elles seront extrêmement nombreuses. Vous en avez beaucoup parlé. Il y a toute la grosse tech américaine. Il y a également de très grandes valeurs cycliques industrielles. Les pétrolières américaines aussi qui doivent publier. Et puis, il y aura quelques chiffres importants, hein, sur le plan macroéconomique, notamment la croissance américaine. Le CAC, donc, sur un début de semaine finalement plus prudent que prévu, moins 0,13%. On est à 8011 points. Du côté des devises, l'euro face au dollar cote à 1,0659. Et puis, à noter le pétrole qui poursuit sa consolidation. On repasse sous les 86 $ en ce moment, 85,92 $.
Et oui, et Antoine, on vous retrouve dans une heure pour faire le point sur la séance en cours, mais aussi pour votre histoire financière. On reparlera de l'euro, qui se tient plutôt bien en ce moment, mais on va le voir, hein, presque toutes les devises s'effondrent face au dollar américain. Il y a pas mal de choses à raconter. À tout à l'heure, cher Antoine.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Le journal de votre argent ce lundi matin avec Mathias Bacino. Bonjour Mathias.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le directeur des marchés européens pour Trade Republic. Avec vous, nous parlons du jour d'après pour le Bitcoin, c'est-à-dire le jour d'après le halving.
Et ça se passe mieux que dans le film, hein, puisque le jour d'après pour le Bitcoin, donc c'est le jour d'après le halving. Le halving, on le rappelle, c'est le fait de diviser par deux les récompenses que les mineurs reçoivent en échange de leur travail sur la blockchain donc du Bitcoin. Et pour le moment, eh bien, ça se passe très bien. Donc techniquement, ça c'est tout s'est bien passé. Hein, il n'y a pas eu de problème. C'était pas le premier. Donc la blockchain Bitcoin là-dessus est absolument solide et a prouvé une fois de plus sa résistance. Et le Bitcoin, qui avait pris plus de 50% hein, depuis le début de l'année, avait touché un record à 74 000 $ quasiment il y a quelques temps, se comporte bien. Il a été plus fort que le Nasdaq la semaine dernière. Il évolue aujourd'hui dans un range, hein, un couloir, on pourrait dire, entre 60 000 et 74 000 $. Et on peut juste rappeler que, historiquement, les périodes qui ont suivi un halving ont été des périodes de hausse pour le Bitcoin. Alors, statistiquement, c'est pas forcément toujours très pertinent de regarder sur un actif aussi jeune que le Bitcoin. Néanmoins, ça peut donner une indication. La dernière fois, donc, on avait eu plus 370% sur l'année qui avait suivi le halving. Et la fois d'avant, j'ose à peine le dire, c'était plus 7000%. Mais c'était une autre époque pour le Bitcoin.
Voilà, à suivre évidemment les jours d'après le halving. Nous ferons ça cette semaine. Et Amaury de Tonquédec fera ça tous les jours à 15h dans BFM Crypto, le club. Un mot des bourses américaines. On se demande si c'est le calme avant la tempête.
Là, on est à un moment effectivement peut-être charnière sur le marché américain, puisque les acteurs des marchés ont revu ces derniers temps leurs anticipations de baisse des taux. On se rappelle qu'au début de l'année, il était question qu'il y ait peut-être 6 ou 7 baisses de taux en 2024 de la part de la Banque Centrale Américaine. Il est très clair pour tout le monde aujourd'hui que ce ne sera plus le cas. Ce durcissement de la Fed est allé de pair avec un relatif soulagement sur le front des tensions internationales, puisque la situation entre l'Iran et Israël semble s'être calmée. En revanche, au même moment, on a les premiers résultats trimestriels de sociétés qui sont arrivés sur le marché américain, et Netflix, entre autres, qui a beaucoup déçu avec des prévisions faibles, et Nvidia, qui a décroché de près de 14% sur la semaine, Tesla dans les mêmes proportions. Donc, on a un moment de forte tension sur le marché américain qui doit décider si après avoir respiré la semaine dernière, on veut repartir de l'avant en ayant digéré le fait que les baisses de taux seraient moins nombreuses cette année et sans doute peut-être même inexistantes.
Hein, oui,
ouais, tout à fait. Et là, on aura les chiffres du PIB donc au premier trimestre qui vont sortir jeudi et surtout l'inflation qui va sortir vendredi, qui vont être vraiment essentiels hein, pour essayer de comprendre. Parce que là, les gouverneurs de la Fed n'ont plus le droit de s'exprimer désormais jusqu'au début mai. Oui. Et donc, on va suivre vraiment de près ces anticipations macroéconomiques et ces chiffres macroéconomiques. Dans les jours qui viennent, là, encore une fois, les sept magnifiques vont jouer les juges de paix. On aura Tesla, Meta, Alphabet et Microsoft qui vont publier leurs résultats trimestriels et qui sont attendus, évidemment, de manière très claire par les marchés.
Les sept magnifiques, ou en tout cas le nombre qui reste en juge de paix, on verra ça cette semaine. Effectivement, vous le rappelez, Mathias, la publication de l'indice PCE pour les États-Unis vendredi. Un petit mot de BCE avec votre pari, Mathias? On en parle souvent en préparant ces séquences avec vous. Est-ce que la BCE, pour une fois, pourrait agir avant la Fed?
Alors, on le pressentait depuis plusieurs semaines maintenant. C'était un thème, je dirais un narratif, comme on dit sur les marchés, qui commençait à voir le jour. On a eu du mal à y croire parce que c'est très rare. En tout cas, moi, depuis 20 ans bientôt que je suis sur les marchés financiers, je ne me rappelle pas la Banque Centrale Européenne avoir bougé avant
la
Fed exactement. Mmh. Donc il se passe quelque chose de vraiment très important parce que cette première, il faut en tirer quelque chose. Il faut essayer de comprendre pourquoi, quel impact ça peut avoir cette fois-ci. La présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, dont on connaît par ailleurs les ambitions politiques plus larges actuelles, a dit que son action était dépendante des données, mais pas de la Fed. Or, on sait que l'inflation en zone euro, on est à 2,4% sur un an, alors qu'aux États-Unis, on est plutôt à 3,5%. Donc là, le différentiel macroéconomique est très très clair. Ce qu'on va surveiller, c'est l'impact que ça peut avoir. Parce que les épargnants européens font face à une situation inédite, et donc il faut qu'ils aient en tête quelques repères. Si la BCE baisse les taux la première, ce qu'il faudra suivre en premier, c'est l'euro. Parce que l'euro face au dollar, si jamais l'euro venait à décaler à la baisse, bien ça pourrait être un facteur positif pour les actions européennes. C'est peut-être d'ailleurs cette anticipation qui explique la surperformance du CAC 40 depuis un mois. Il est à 2% à peu près de son record, alors que les USA, eux, ont perdu plus de 8% par rapport à leur record. Donc, on va surveiller de très près la perspective d'une baisse des taux de la BCE avant la Fed, potentiellement dès juin, parce que ça pourrait avoir un impact très fort sur les marchés européens, qui sont, on le sait, favoris des investisseurs français.
Voilà, notre BCE data dependent, enfin en tout cas Christine Lagarde data dependent. Merci Mathias pour ce tour d'horizon de l'actualité. On vous retrouve dans une dizaine de minutes avec vous. On va parler de l'IFU, document clé pour vous qui êtes peut-être en train de faire votre déclaration d'impôt, parce qu'on va parler de ce qui concerne les comptes à l'étranger, des spécificités qui concernent les comptes à l'étranger. C'est important d'être au point. Vos impôts, d'ailleurs, on va en parler largement cette semaine. La chaîne et puis Tout pour investir en particulier se mobilise pour répondre à vos questions. Dans quelques minutes, Albert Dantoir de Nalo nous rejoint, ainsi que Julie Cohen de BFM Bourse. Mais avant ça, nous passons une tête chez nos traders.
Tout pour investir, le match des traders.
Ce matin, c'est Jean-Louis Cuissac, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil, qui est là avec, c'est lundi, Stéphane Sauduteil. Bonjour Stéphane. Responsable du site technicbourse.com. Jean-Louis, on va démarrer avec vous, parce qu'on était ensemble vendredi.
Bonjour.
On s'est dit plein de choses quelques heures avant le week-end, et là on voudrait savoir où on en est. Racontez-nous votre vision du marché ce matin.
Et on n'en est pas loin du même niveau en fait, parce que le marché a démarré très fort, rassuré par le fait que l'Iran ne devrait pas, pourrait ne pas relancer, augmenter sa puissance de feu par rapport à la première attaque, et surtout ne rien faire, on va dire, peut-être, je dis bien peut-être, mais cette menace reste présente et on a rebaissé là de 0,8%. C'est assez rare, c'est vrai, on a ouvert avec un gap à la hausse, donc nettement au-dessus du plus haut de vendredi, et puis on n'a fait que rebaisser depuis. Alors on a aujourd'hui quand même à noter des dividendes, ce qui fait baisser le CAC, mais mécaniquement c'est Stellantis, donc ça a un impact à peu près de 14 points, c'est pas mal. Il y a un gros dividende sur Stellantis. Elle pèse 2,8% du CAC 40. Là, maintenant, entre le futur et le cash, vous avez 57 points. Donc, les dividendes à venir, mais le taux d'intérêt qui se rajoute, pour l'instant, sur le futur, et au prorata temporis, le futur va baisser un petit peu du taux d'intérêt. Bon, cette reprise, elle est fragile. Bon, évidemment, maintenant, on le constate. Je m'attends toujours pas, moi, si vous voulez, un fort rebond des marchés, on voit pas le moteur, c'est ce qu'on disait vendredi déjà. C'est-à-dire quel pourrait être le moteur d'une reprise des marchés? La confirmation, la certitude déjà que tout ira mieux au Moyen-Orient, que l'Iran ne va pas remonter d'un cran dans l'attaque et qui est surtout pas d'attaque. Et pour le reste, c'est les taux d'intérêt. Bon, les taux d'intérêt, bah écoutez, on reste tendu encore même ce matin. Hein, d'ailleurs, l'euro-dollar ne rebondit pas. Il y a toujours des tensions assez fortes. Alors, sur le CAC 40, tant qu'on est au-dessus de 3815, moi je tente des achats. Alors, c'est le futur mai. Donc, je tente des achats et je passe vendeur. Alors, maintenant, j'ai remonté tous mes niveaux, sous 7008. On passe vendeur sur le CAC 40. Alors, c'est pareil, hein, on s'attend pas non plus à une catastrophe. Les marchés sont bien construits. On a vu tous ces derniers temps qu'il y avait zéro effet domino. Donc, voilà, on reste serein quand même dans une perspective long terme. Il y aura peut-être même des occasions d'acheter si le marché baissait d'une manière assez sensible, dans une perspective de pour les gérants, etc. Il y aura peut-être la chasse aux bonnes affaires. Pour l'instant, on peut pas déduire grand-chose de cette séance. Elle valide l'idée qu'on reste fragile. Moi, ce matin, vous voyez, mon premier niveau d'achat, c'était 7961. Là, on est à 55, on est légèrement en dessous. Donc, j'avais pris une marge déjà assez importante pour acheter. Et même sur le DAX, on était plutôt vendeur. On a vendu donc vers 18073. Là, c'était pas mal vendu. Donc, le marché, pareil, il a rebaissé. Bon, ça reste incertain. Mais c'est pas si mal que ça. Mais encore une fois, tout va tenir au Moyen-Orient.
Jean-Louis, toujours à l'achat. Et vous, Stéphane Suditeil, comment vous envisagez cette journée et comment l'avez-vous commencé depuis 1h19?
C'est vrai que on a ouvert un gap à la hausse qu'on a comblé il y a quelques minutes. C'est vrai qu'on reste dans une zone assez étriquée quand même. On est toujours en phase de consolidation baissière, mais non affirmée, on pourrait dire, entre 7900, hein, qui reste un support assez solide, et puis la grosse résistance qui empêche toute initiative vraiment haussière ou de rallier les points hauts d'il y a quelques temps. Cette zone, c'est 8100, 8080. Donc on est coincé dans 200 points de range, en attendant bien sûr des nouvelles. Alors cette semaine, on a quand même de gros catalyseurs avec les PMI manufacturiers en zone euro aux États-Unis mardi, le PIB US jeudi, et puis surtout les trois premières GAFAM avec Google, Meta et Microsoft qui vont publier cette semaine. Donc il y a matière à faire bouger certainement les lignes. Alors c'est vrai que quand on regarde les marchés américains, on se tient quand même pas si mal que ça. Alors c'est peut-être une question effectivement monétaire, avec des baisses de taux qui seraient peut-être plus rapides de la part de la BCE que de la Fed, et ce qui maintient quand même le marché sous des niveaux quand même qui restent assez solides, assez hauts. Voilà, donc on surveillera 7900 points quand même. Si on passait en dessous, là peut-être qu'on aurait une petite démoralisation et un retour sur des gaps restés ouverts à la hausse, bien plus bas, vers 7820, 7855, voire un peu plus bas encore. Mais pour l'instant, on peut naviguer un petit peu à vue entre 7900 et 8100 points.
Merci beaucoup Stéphane et Jean-Louis. Les niveaux techniques à surveiller dans Tout pour investir. À plus tard dans la semaine, messieurs. Nous continuons à débattre des sujets qui vous concernent en tant qu'investisseur particulier. C'est tout de suite.
Tout pour investir. Tout pour votre argent.
L'équipe du lundi au service de votre argent. Mathias Bacino de Trade Republic est avec nous. Rebonjour Mathias.
Rebonjour Lorraine.
Rejoint par ma consoeur Julie Cohen. Hello Julie.
Bonjour Lorraine.
Aux manettes de BFM Bourse tous les jours à 15h. Et puis Albert Dantoir. Bonjour Albert.
Bonjour Lorraine.
Notre pousseur de coups de gueule, directeur général adjoint de Nalo. Vous allez nous raconter une histoire. Ce sera l'histoire du lundi d'Albert. Mais avant ça, nous allons parler de l'IFU. Ce document très important pour votre déclaration d'impôt. Et je peux vous dire, Mathias, depuis que j'en ai parlé il y a quelques minutes, on a déjà reçu quelques messages d'auditeurs. On nous demande beaucoup de choses sur cet IFU. Expliquez-nous cet acronyme. Mystérieux.
C'est
ou pas. Pour ceux qui ont un compte à l'étranger.
C'est pas le meilleur moment de l'année pour les passionnés d'investissement et de bourse. Donc l'IFU, c'est l'imprimé fiscal unique. En le disant, j'ai la bande son de Dark Vador qui arrive derrière. Voilà. Donc l'imprimé fiscal unique, c'est ce document que vous remettent vos banques, vos intermédiaires, vos courtiers.
Ou Trade Republic en toute transparence.
Ou Trade Republic, bien sûr, pour vous aider à remplir votre déclaration fiscale. Vous devez entre autres, déclarer vos plus-values boursières, vos plus-values et vos moins-values qui peuvent éventuellement se compenser. C'est un point essentiel. Donc, La saison fiscale commence. Il s'agit de recevoir tous les IFU, donc de les demander. Vous pouvez me harceler sur Twitter pour ce qui concerne Trade Republic, ou bien évidemment demander à votre banquier, votre courtier. Une fois que vous avez rassemblé tous vos IFU sur le site impots.gouv.fr, vous pouvez effectuer votre déclaration en faisant la somme de ces différents IFU et en faisant bien attention entre les établissements qui télédéclarent et qui ont donc préfourni les données à l'administration fiscale et les établissements comme Trade Republic qui ne télédéclarent pas pour donc sur lequel vous devez ajouter vos chiffres. Bien sûr, on n'oublie pas de renseigner les sommes qu'on a versées sur un PER, par exemple, qui sont déductibles, les dons aux associations, les éventuels employés à domicile, pour réduire évidemment sa fiscalité. Et enfin, on peut préciser que pour les comptes détenus à l'étranger, il y en a eu quelques centaines de milliers en plus cette année en France, eh bien, il y a déclaration 39-16. Ça prend 5 minutes, ça fait peur, mais en fait, c'est relativement rapide. Je le fais moi-même tous les ans depuis 4 ans.
Voilà. Alors, ça se demande, vous l'avez entendu, pour pas mal d'établissements. D'autres s'occupent de télédéclarer pour vous ce document clé. Donc, faites vos devoirs. Mathias est rassurant, ça ne prend pas trop de temps. Puisqu'on est en train de parler de sujets administratifs, nous allons parler de transférer son PEA. Julie, vous avez quelques minutes pour nous convaincre que ça aussi, c'est simple et c'est facile.
Alors, je ne sais pas si je vais vraiment vous rassurer parce que ça prend un tout petit peu de temps. Alors, déjà, si vous avez besoin de changer de banque, parce que vous avez besoin de regrouper votre épargne, parce que vous voulez avoir un meilleur service client, de meilleurs conseils, bref, quelle que soit la raison, vous pouvez avoir besoin de changer de banque et donc de transférer vos comptes. C'est ce qu'on appelle donc la mobilité bancaire. Donc tout ça maintenant, c'est réglementé, c'est même simplifié, puisqu'il y a une loi sur la mobilité bancaire depuis 2017 qui permet donc de changer de banque et gratuitement, la banque s'occupe de toutes les démarches. Sauf qu'il faut lire aussi les petites lignes. Et ça, c'est valable pour les comptes bancaires. Donc, dès lors qu'il s'agit effectivement de livrets d'épargne réglementés ou de comptes comme le PEA, effectivement, tout ça, c'est exclu. Et du coup, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Il y a des points d'attention à avoir si vous voulez transférer votre PEA d'une banque à l'autre. Et là, pour le coup, ça prend un petit peu plus de temps.
Quels sont les points d'attention que vous retenez pour nous, Julie?
Alors, déjà, il faut quand même anticiper pour voir comment se passe le transfert de PEA parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Il y a la demande de transfert, son initialisation, le traitement, l'édition des bordereaux. Tout ça, ça va prendre du temps. Donc, si vous avez votre PEA bien structuré, ça peut l'impacter, ça peut le mettre en pause. Donc, voilà, il faut anticiper et prendre le temps de voir comment ça se passe. Il faut évidemment aussi vérifier le contenu de votre PEA et notamment il y a des actions qui sont susceptibles d'être impactées par ce transfert. Il y a notamment celles qui sont liées au fractionnement d'actions, au regroupement d'actions. Donc ça, c'est des points à considérer avant d'envisager un transfert. Il faut aussi prendre en compte les catégories de titres qui pourraient ne pas être acceptées par votre nouvel établissement bancaire. Et puis, c'est peut-être aussi le printemps, le moment aussi de faire un peu de ménage dans votre PEA. L'idée, c'est peut-être aussi de simplifier un peu sa composition en vous délestant de certains titres.
Impossible que vous ne nous parliez pas de frais.
Oui, qui dit transfert, il y a forcément des frais. Alors, il faut s'assurer d'avoir suffisamment de liquidités disponibles pour couvrir ces frais qui sont réglementés depuis la loi Pacte de 2019. Donc, il y a les frais d'ouverture, par exemple, qui sont limités à 10 euros, les frais de transfert et de clôture à 150 euros, les frais de tenue de compte aussi qui sont limités. Donc tout ça, il faut faire attention quand vous voulez transférer votre PEA. Il faut préparer un dossier complet. Tout cela prend du temps. Et puis aussi, évidemment, juste avant le transfert, un dernier point, pensez à annuler l'ensemble des ordres que vous effectuez en bourse pour effectivement ne pas que ça impacte vos stratégies d'investissement.
Mathias, Albert, la checklist est bonne?
Oui, après, il faut aussi s'armer de son samouraï, d'un gilet pare-balles pour les conversations avec la banque qu'on quitte. Enfin voilà, c'est
on essaie de rester positif le lundi.
Malheureusement, la fluidité du marché de l'épargne en France est encore aujourd'hui au point mort. Il y a un vrai sujet pour la fluidité du marché de l'épargne en France. Ça va au-delà du PEA. C'est le cas pour le PEA où, franchement, aujourd'hui, on en est à recommander de transférer des PEA avec uniquement du cash dessus.
C'est-à-dire que c'est... on vend tout et on transfère le cash.
Voilà, c'est ce qu'il y a de... Aujourd'hui, alors, chacun doit prendre ses propres décisions, évidemment, parce qu'il y a des incidences pour les détenteurs. Mais si on veut absolument transférer, honnêtement, aujourd'hui, le plus simple, c'est ça. Et après, on rappelle que l'assurance vie n'est toujours pas transférable en France. C'est un problème parmi d'autres, mais néanmoins un problème très important.
Il y en a qui disent que c'est plus simple d'effectuer un achat immobilier en ce moment que de transférer son PEA.
Eh ben, c'est rassurant. Voilà, parce que déjà que c'est compliqué l'immobilier en ce moment. Très sérieusement, on aurait pu faire un sujet sur la non-transférabilité de l'assurance vie, mais on a choisi plutôt qu'Albert nous raconte une petite histoire, une histoire d'économie réalisée. Justement, on parlait de gens pas contents de leur banque. On peut ne pas être content de son assureur et on peut avoir beaucoup d'argent et être très mal servi par sa banque. Racontez-nous, Albert.
Tout à fait, Lorraine. Je rajouterais juste deux points concernant l'IFU, qui est un acronyme en effet assez complexe.
Ne pas confondre avec l'IFI.
Voilà, aussi.
IFU et IFI. L'IFU.
Deux points en plus. Bien, c'est pas parce que votre déclaration, elle est, parce que j'ai fait beaucoup de déclarations d'impôts à une époque pour tout un tas de clients. Bien faire attention, c'est pas parce que votre déclaration est pré-remplie qu'il ne faut pas vérifier tout. Oui. Notamment un point. C'est que ce qui n'est pas pré-rempli, c'est ce qui est déductible. Ce qui est un peu dommage, parce qu'on peut déduire les frais, par exemple, de votre, de vos enveloppes fiscales. Et deuxième point, que Mathias, dont Mathias parlait pour les comptes à l'étranger. Donc, ça vaut pour tout un tas d'acteurs par lesquels on peut passer, et notamment la crypto-monnaie. Souvent, il y a des comptes qui sont détenus à l'étranger. Faire bien attention, parce que si vous ne les déclarez pas, par oubli, hein, souvent, ça peut être juste une petite erreur, ça coûte de l'argent. Vous avez une petite amende. Évidemment, on a le droit à l'erreur, mais pour connaître aussi un petit peu ça, faire attention à ses comptes à l'étranger, vous quel qu'il soit, même s'il y a zéro. Ouais. Même s'il y a zéro. Donc, vous avez fait un Erasmus il y a 10 ans en Irlande. Vous aviez un compte, vous avez les laissé zéro. C'est tout un bazar pour le clôturer parce que vous êtes plus là-bas. Il faut le déclarer. Voilà. Oui, donc ça, c'était juste pour préciser ces deux petits points.
En 2024, vous n'avez plus d'excuses et de ne pas savoir que, par exemple, N26, ça n'est pas français.
Voilà, par exemple.
Bon, allez, racontez-nous votre histoire.
Donc, la petite histoire qui est assez liée à ce que Julie expliquait et puis aussi un peu aux réponses de Mathias sur la transférabilité. Et c'est vrai que la problématique de la liberté des épargnants pour transférer leur argent où ils veulent, pour être gérés comme ils le souhaitent, eux, et pas comme le souhaitent leur courtier ou leur assureur, etc. J'ai rencontré une dame de 65 ans. Donc imaginez, vous avez 65 ans. Vous êtes client dans une banque depuis à peu près 40 ans, parce qu'elle y était depuis l'âge de 25 ans. Histoire très particulière avec la banque, parce que la famille très liée avec la banque dans laquelle elle était. Et puis elle se rend compte depuis 2 ans que les choses ne vont plus, malgré cette ancienneté, ces liens qu'elle avait. Je vais vous donner deux choses qui m'ont vraiment surpris et que j'ai trouvé problématique, surtout dans un pays où malheureusement on ne peut pas transférer, du moins facilement. Première chose, l'investissement, c'est-à-dire l'allocation qu'elle a dans son assurance vie. J'ai pris mon doigt tellement j'étais atterré par le nombre de lignes qu'il y avait dans le contrat. Et pour bien me dire que je ne suis pas en train de loucher, j'ai pris mon doigt et j'ai compté. Il y avait 37 fonds.
37 fonds dans une
c'est,
assurance vie.
Comme m'a dit quelqu'un, c'est plus de la diversification, c'est de l'éparpillement. Premièrement. Deuxièmement.
Rappelez-nous, en moyenne, une assurance vie, il y a combien de fonds?
Normalement, franchement, si vous vous limitez aux fonds essentiels, on va dire, et que vous partez pas dans tous les sens, moi, je dirais qu'entre 10 et 15 fonds, vous vous débrouillez très bien.
Une fois 3.
Et même quelquefois, bien moins que ça. Mmh. Et quelquefois, même bien moins que ça. Mais si on parle de diversification, de dilution du risque, blablabla, etc., on peut être à peu près sur ça, même, je dirais même entre 8 et 10 même. Deuxièmement, elle s'est posée la question des frais. Cette personne a une somme à 7 chiffres sur son assurance vie. Tenez-vous bien.
Ça fait à peu près 1,5 million.
Voilà, 1,5 million. Tenez-vous bien, elle paye 50 000 euros de frais par an.
Mathias est au bord de l'AVC.
50 000 euros de frais par an. Alors pourquoi est-ce que j'explique ça? C'est pas pour aller taper sur les acteurs comme ci, comme ça. C'est pas le sujet. C'est pour dire aux épargnants, lorsque vous investissez, regardez un peu ce qu'on fait de votre argent. Et vérifier notamment ces deux points. Pas avoir 50 lignes et pas avoir des frais absolument démesurés. Parce que les frais, c'est la performance négative avec une probabilité de 100%. Vous êtes sûr de faire au moins en négatif les frais que vous payez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer ceux qui travaillent pour vous. Ce n'est pas le sujet, encore une fois. C'est simplement d'avoir des frais qui soient cohérents. Et là, se pose la question, je reviens vers Julie et vers Mathias, du transfert. On se dit, bon, je me rends compte que les choses vont pas exactement comme je l'imaginais. Et en plus, je suis là depuis 40 ans. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément courant d'être dans une même banque depuis 40 ans. Bon. Mais au moins, si je suis pas depuis 10 ans ou depuis 15 ans, je me dis, bon, bah, je vais peut-être prendre mon compte et je vais aller ailleurs. Eh ben, gros problème, la transférabilité de l'assurance vie. C'est un sujet depuis 5 ans, depuis la loi Pacte de 2019. La transférabilité interne, c'est-à-dire au sein d'un même assureur, est possible. mais il y a des blocages, il y a des réticences, etc., etc. Et malgré même une loi qui a été votée au Sénat le 31 janvier 2023, la loi Husson-Montgolfier, qui donne un droit au transfert. Est-ce que vous imaginez qu'en France, on est obligé de faire des lois pour vous permettre de faire ce que vous voulez de votre argent? C'est quand même assez aberrant. Donc, voilà un peu mon histoire du lundi. Faites attention à ce qu'on fait de votre argent. Et vérifier un peu ce qui se passe pour et puis surtout aller voir les institutions financières auprès desquelles vous êtes pour aller un peu parler de cette transférabilité et du fait que ce n'est pas si simple que ça.
Vous êtes choqué, vous êtes interloqué. Sachez qu'à 11h30, on en reparlera de cette assurance vie et justement de vos banquiers qui peuvent peut-être vous pousser à ouvrir une assurance vie. Vous avez peur d'être bloqué. Alice Labou de Trecento AM viendra apporter une réflexion là-dessus. Mathias, le mot de la fin.
76% des Français ne comprennent pas leurs frais bancaires exprimés en pourcentage. Si vous voulez impacter fort la vie de vos enfants, de votre petit cousin, de votre neveu, apprenez-leur les frais en pourcentage. Une fois que vous avez compris comment fonctionnent les frais en pourcentage, votre vie financière change pour toujours. Donc c'est un point essentiel d'éducation financière.
Chiffrer et déchiffrer, c'est essentiel pour maîtriser ses.
Et donc je reviens, Lorraine, sur l'histoire quand même, parce que...
Pas longtemps, Réuta, parce qu'on est déjà très en retard.
Ouais, mais Réuta, elle est bloquée. Cette personne qui voudrait gérer son argent d'une meilleure manière et de façon plus cohérente, elle est bloquée. Voilà,
1,5 million bloqués alors que vous êtes cliente depuis 40 ans. Si cette situation vous parle, eh bien, écrivez-nous, partagez avec nous vos difficultés au quotidien de la gestion de votre argent. Dis donc, Mathias, on nous demande quand est-ce que Trade Republic va envoyer les IFU. Vous
avez une réponse, on est en train de faire les dernières vérifications. Là, le processus suit son cours, c'est une question de jour.
C'est imminent, Xavier, qui nous a écrit sur direct@bfmbusiness.fr. Merci, cher Julie. On vous retrouve dans et derrière BFM Bourse.
Merci,
à 15h30 tout à l'heure. Évidemment, les résultats, les publications d'entreprises qui continuent. Et puis la TQS. Qui sera sous votre radar, chère Julie. Mathias Bacino de Trade Republic, le lundi avec nous, Albert Dantoire de Nalo et Julie Cohen à votre service pour décrypter l'actualité patrimoniale en ce lundi matin. A tout de suite pour une dose d'économie avec Nicolas Dose.
Tout pour investir, dose d'économie.
Une dose d'économie et puis une question quasiment rhétorique. Est-ce que les chômeurs cherchent vraiment à travailler? Oui, répond France Travail. Que dit précisément le bilan 2023 de ce qu'on peut appeler l'héritier de Pôle emploi?
C'est exactement ça, l'héritier de Pôle emploi. Le bilan dit que dans la très très grande majorité, les chômeurs cherchent un emploi. Ils s'appellent demandeurs d'emploi, ils portent bien leur nom. 83% sur les 523 000 contrôles ont confirmé qu'il y avait une recherche d'emploi, ce qui veut dire que dans 17%, il y aura des contrôles qui conduisent à des sanctions pour des manquements divers. Mmh. C'est pas forcément le mythe du chômeur profiteur. Et des sanctions qui peuvent aller d'une radiation d'un mois à une radiation plus longue. En cas de manquement répété aux obligations de recherche d'emploi. Alors, le nombre de contrôles, je l'ai donné, 523 000 en 2023. C'est l'un des sujets sur lesquels veut appuyer le Premier ministre, puisqu'il a indiqué que l'objectif, c'était d'aboutir à 1,5 million de contrôles, trois fois plus. En 2027.
Bon, donc, ce bilan publié par France Travail aboutit au constat que les chiffres sont stables, y compris pour tout ce qui est radiation.
C'est ça. Alors, le niveau de radiation, aujourd'hui, il est à un niveau élevé, c'est vrai. Mais systématiquement, pendant la période de création d'emplois et d'amélioration des chiffres du chômage, chaque fois qu'on donnait les données publiquement dans les médias, il y avait toujours des tombereaux de réactions pour dire que tout ça était un mensonge absolu, que c'était les radiations qui explosaient et que les radiations étaient un maquillage de la réalité du marché du travail. Non, les radiations ne sont pas là pour maquiller la réalité du marché du travail et des chiffres de Pôle emploi. Il y a un deuxième aspect que je mets en avant sur ce rapport, c'est que dans les 83% que j'ai cités, eh bien, dans presque 20% des cas, ces contrôles ont permis d'identifier des gens qui avaient besoin d'un accompagnement renforcé parce qu'ils étaient un peu à la dérive. Et donc, c'est un effet positif. Ça a permis de réorienter leur parcours de retour vers l'emploi. Et troisième enseignement, c'est que malheureusement, quand même, dans bien des cas, eh bien, les chômeurs qui sortent, qui retrouvent un travail, retrouvent un travail précaire. En fait, c'est une petite minorité qui parvient à décrocher un CDI ou alors un CDD de plus de 6 mois. La grande majorité retombe sur des contrats très courts et on constate, mais on le sait déjà, que plus on reste au chômage, plus le retour à l'emploi est difficile. Le point de bascule, c'est plus de 6 mois au chômage, c'est là où l'employabilité, généralement, s'est pas mal abîmée.
Il y a l'ambition du plein emploi pour 2027. Gabriel Attal a confirmé sur BFM TV une nouvelle réforme de l'assurance chômage, là, cette année, en 2024. Qu'est-ce qu'on en connaît?
Eh bien, il y a une nouveauté, c'est que jusqu'ici, le Premier ministre laissait entendre qu'on allait surtout, visiblement, jouer sur les paramètres de la durée d'indemnisation. On est tombé à 18 mois pour la majorité des actifs, tombé à, je sais pas, à 14 mois ou 12 mois comme en Allemagne. Mmh. C'est absolument pas ce qu'il a dit jeudi dernier. Il a mis l'accent sur le fait de durcir probablement les conditions d'éligibilité à l'assurance chômage. Aujourd'hui, vous pouvez avoir à l'assurance chômage si vous avez travaillé 6 mois lors des 24 derniers mois. Mmh. Et visiblement, c'est sur ce point-là, et c'est pas celui-là qui était attendu en priorité, que le Premier ministre veut agir. L'objectif, c'est de s'attaquer à l'alternance excessive entre un emploi court, l'indemnisation, un emploi court, l'indemnisation. Je lui ai d'ailleurs dit, j'avais le sentiment que c'était la première réforme qui avait finalement essayé de mettre fin à ce qu'on appelle la permittence. Eh ben, il semblerait que ce soit aujourd'hui dans les priorités de la réforme qui va venir.
Voilà, la fin de la permittence. On a Antoine qui vous écoutait en direct pendant les experts tous les jours, de 9h à 10h sur BFM Business. Il réagissait en disant deux choses. Je suis au chômage et j'ai réussi un concours de la fonction publique. Je continue d'être payé pendant 5 mois avant de commencer ma formation en octobre. Il gonfle un peu les chiffres malgré lui. Seconde chose, en se rendant à Pôle emploi, il a rencontré d'autres usagers, et je le cite, dont j'ai jugé que plus de la moitié, en quelques secondes, étaient inemployables à cause de leur habillement, de leur attitude, de leur maîtrise du français.
Il y a plein de raisons qui peuvent faire que l'employabilité est malheureusement entachée. Il peut y avoir effectivement ce qu'on appelle le mot ne me revient pas, là, le mot anglais, les soft skills, mais c'est principalement quand même le manque de formation. Hein. 80% des chômeurs n'ont pas le bac ou le niveau bac.
La formation au secours des chômeurs. Merci beaucoup Nicolas pour cette dose d'économie à retrouver en podcast et en replay sur le site et l'application de BFM Business. Et puis pour cette séquence, cette dose d'économie, vous pouvez également la visionner sur YouTube et réagir en commentaire. C'est l'heure de s'occuper de votre culture financière, de parler de finances comportementales avec Julien Nebenzal.
Tout pour investir, les marchés et vous.
On prend ses profits et on laisse filer ses pertes. Nous allons parler de l'effet de disposition avec vous, cher Julien. Julien Nebenzal, senior advisor chez Advise. Car oui, vous êtes notre coach en finance comportementale. Qu'est-ce que c'est que l'effet de disposition et pourquoi ceux et celles qui nous écoutent ce matin doivent se sentir particulièrement concernés ?
Alors, l'effet de disposition, alors c'est un terme qu'il faut peut-être justement préciser. Ça vient de la notion de disposer de ses actifs. C'est-à-dire que quand on a des investissements, en disposer, ça signifie par exemple qu'on peut les vendre, soit pour récupérer l'argent, soit pour faire un autre investissement. Donc en fait, l'effet de disposition, c'est lié à une opération qu'on va faire sur un actif qu'on a. C'est ça que ça veut dire. Et en quoi c'est important pour tout le monde ? Eh bien, parce que cet effet de disposition, tout le monde y est soumis. C'est impossible de ne pas y être soumis. Après, ce sera à des degrés différents selon justement l'expérience, la personnalité, la volonté de progresser. Chacun pourra trouver une amélioration par rapport à ce biais. Alors ce biais, il a une origine académique. Il était connu par les boursiers il y a 30-50 ans, mais les boursiers, on leur disait, ben oui, mais vous voyez quelque chose, vous entendez quelque chose, mais on n'a pas d'écrit là-dessus, on ne comprend pas. Alors c'est Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, qui a commencé à ouvrir bien la voie en écrivant que un individu n'a pas la même attitude selon qu'il gagne ou qu'il perd de l'argent. Il n'y a pas de symétrie en fait. Il y a d'un côté, je gagne et j'agis d'une certaine manière, de l'autre, je perds et j'agis d'une autre manière. Donc ça, c'est les travaux académiques. Et c'est aller plus loin, je voudrais citer par exemple, après je ne cite plus d'académiques.
Mais vous en citez David, autant que vous voulez, Julien.
David Hirschleifer, qui a écrit sur les biais comportementaux et qui a notamment bien décrit ce biais. Alors, ce fameux biais de confirmation, biais de disposition, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on est face à des investissements et qu'on peut réaliser quelque chose, on va avoir tendance à vendre quelque chose sur lequel on gagne. Et si on a quelque chose sur lequel on ne gagne pas ou on perd, eh bien on va avoir tendance à ne pas faire cette opération. Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est un rapport au temps. Il faut bien savoir que quand on va vendre quelque chose sur lequel on a un profit, eh bien on va avoir une satisfaction qui est immédiate, puisqu'on réalise un profit. Et comme la satisfaction est immédiate, si je prends une expression populaire, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, ce qui est pris n'est plus à prendre, je l'ai, j'ai gagné. Mais regardez, le même raisonnement dans l'autre sens. Je vais vendre quelque chose sur lequel je perds. Donc là, on ne parle plus de satisfaction, on parle d'insatisfaction. Mais cette insatisfaction, tout de suite, ne me rapporte rien. Je peux la décaler dans le temps. Je peux dire peut-être demain ça vaudra plus cher et je perdrai moins. Ce qui fait que le temps agit déjà comme un moteur de cette décision asymétrique entre le gain et la perte. Après, il y a les travaux de la finance comportementale qui peuvent nous éclairer sur les émotions qu'on va ressentir à ces moments-là. Quand on vend quelque chose qui est en profit, inévitablement, on a un sentiment de confiance, peut-être même de supériorité, ça arrive. On se sent, c'est une satisfaction qui donne une très bonne image de soi-même, puisqu'on vient de réaliser un profit. Et en plus, on a cette notion d'avidité, qui est pareil que nous avons tous, qui est de dire, je peux prendre ça, je le prends tout de suite. De l'autre côté, quand on est face à une perte qu'il faut réaliser, donc il faut disposer en quelque sorte, qu'il faut réaliser, d'abord, on va avoir un sentiment quasiment d'infériorité. J'ai acheté quelque chose, ça n'a pas marché. Je ne suis pas bon. C'est une image de soi qui va être négative cette fois-ci. Et cette image de soi négative, bah finalement, on n'a pas tellement envie de la développer. Et c'est plutôt la peur de mal faire et de faire encore plus mal qui va l'emporter par rapport à l'avidité dans l'autre cas. Et quand la peur l'emporte, eh bien les décisions, ça on le sait, c'est pas besoin de faire de la finance comportementale, quand la peur guide une décision, elle est mauvaise conseillère et on va faire n'importe quoi. Donc ces biais que nous avons en général expliquent, sont des biais d'émotion, expliquent pourquoi nous sommes tous tentés de prendre plus vite des profits et plus tard des pertes. Mais il y a un troisième niveau, et qui celui-là explique encore plus pourquoi tout ça c'est mauvais pour le portefeuille. C'est la finance classique dit que les cours suivent une marche aléatoire. Alors, je ne rentre pas dans ce détail académique, mais ça revient à dire que quand on regarde un cours à un jour donné, on ne peut rien dire sur le cours du lendemain. Or, la réalité, alors certains l'ont démontré, ce sont les analystes techniques de marché, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas tant que ça une marche aléatoire, puisque les cours suivent des tendances. Pendant un certain temps, bien sûr, et ces tendances changent, mais il n'y a pas de marché aléatoire. Il n'y a pas une espèce de mouvement incompréhensible. Il y a une succession de tendances. Donc, quand je vends quelque chose sur lequel j'ai gagné, je vends quelque chose qui a monté. Et comme la tendance, elle est là, eh bien demain, j'ai une bonne probabilité que ça vaille encore plus cher. Donc, je vais faire un profit, mais moindre que si j'avais attendu, à cause du fait de la tendance. Mais dans l'autre sens, si je ne souhaite pas vendre quelque chose sur lequel je suis en moins-value, c'est probable que cette chose ait baissé, donc soit dans une tendance baissière. Donc si je ne vends pas aujourd'hui en me disant je vends demain, eh bien demain, du fait de la tendance, ce sera encore moins cher. Et c'est ce qui aboutit à une mauvaise performance des portefeuilles, puisque les tendances étant présentes et nous étant attirés par prendre un profit immédiat et surtout ne pas prendre une perte, les tendances viennent accroître cette mauvaise décision.
Il ne faut pas surfer les tendances.
On a après des conséquences de tout ça, je viens de la décrire en termes de performance, mais on peut revenir au niveau de l'émotion de l'individu pour vraiment rester dans le comportement. Premier élément, c'est la frustration. Parce que quand vous vendez quelque chose et que ça monte le lendemain, vous éprouvez une frustration. Mais quand vous ne vendez pas quelque chose que vous deviez vendre qui baisse et que ça baisse encore plus le lendemain, vous éprouvez à nouveau une frustration. Qu'est-ce qui se passe, pas pour tout le monde, mais pour quand même un certain nombre d'investisseurs? Eh bien, c'est la deuxième conséquence, c'est-à-dire qu'on regarde un portefeuille où parce qu'on a vendu ce qui a monté assez régulièrement sans vendre ce qui a baissé ou ce qui n'a pas marché, ben on se retrouve avec un portefeuille avec beaucoup de trucs qui ne sont pas très jolis, avec beaucoup de moins-value. Alors, là encore, le portefeuille qu'on va regarder, c'est presque une image de soi qui nous est renvoyée. Oui, évidemment, on a gagné de l'argent à côté, on s'en souvient, tout n'est pas mauvais. Mais il nous reste quelque chose sous les yeux qui n'est pas très très positif, pas très enthousiasmant. Donc ça, c'est une deuxième conséquence relativement importante. Puis la troisième, alors que tout le monde ne rencontre pas, mais enfin, ça arrive, il faut le citer, c'est qu'ayant vu ce portefeuille où il reste finalement beaucoup de pertes pendant des semaines ou des mois, eh bien à un moment, qu'est-ce qu'on fait? On décide classiquement de le liquider, de le céder, de ne plus le voir. Et c'est pas forcément une mauvaise décision d'ailleurs. Et puis, d'une certaine manière, on repart à zéro. On refait un autre investissement. Ou on change d'approche. Très bien. Mais la conséquence négative, c'est que le plus probable, une fois qu'on a fait ça, c'est qu'on va oublier toutes les raisons qui nous ont amenés là. C'est-à-dire qu'on va oublier qu'on a compris, qu'on a vendu trop tôt ce qui montait, qu'on n'a pas assez vite coupé ce qui baissait. Et donc, on a beaucoup de difficultés à appréhender ça et à progresser. Alors, vous me demandiez au début, est-ce que ça touche tout le monde? Je vous disais oui, mais il y a des gens qui surmontent très bien ça. Une manière de le surmonter, c'est d'en être conscient, c'est-à-dire de savoir que quand on veut prendre un profit, peut-être qu'il faut réfléchir, puis-je attendre un petit peu. Et quand on voit un investissement qui part pas très bien, on se dit oui, mais si je vends pas, j'ai pas perdu, donc je vais attendre. Peut-être commencer déjà par réduire ne serait-ce que la ligne et commencer à avoir ses actions en connaissance de ce biais comportemental, ça va vraiment améliorer les performances financières générales du portefeuille.
Vous nous dites apporter un peu de gris. Tout n'est pas blanc ou noir. On doit ajouter un petit peu des nuances de gris.
Des nuances, exactement.
Merci beaucoup, Julien Nebenzahl. Son éclairage en finance comportementale sur ce qu'on appelle l'effet de disposition. Attention à ne pas prendre ses profits trop tôt et au contraire à laisser filer ses pertes. À retrouver en podcast et en replay sur notre application, Julien Nebenzahl de l'équipe d'Advise. On va continuer à parler finance. On va continuer à décrypter ce qui est décryptable en ce lundi matin avec Thomas Veillet. En direct avec nous depuis la Suisse. À tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
Votre coach du lundi depuis la Suisse en duplex avec nous, c'est Thomas Veillet. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Thomas, vous êtes chroniqueur, rédacteur, auteur, youtubeur, écrivain. On retrouve votre plume et votre douce voix matinalement sur investir.ch. On va essayer de comprendre lignes directrices de la semaine sur les marchés qui s'annoncent. On va parler un peu d'IA, parce qu'on commence à se faire peur en se disant que si l'IA nous lâchait, eh bien, ça va pas très bien se passer cette semaine côté bourse. Mais avant ça, on va commenter, on va décrypter tout ce qui baisse. Il y a plein de choses qui baissent. Il y a d'abord les marchés qui baissent, les taux qui baissent, ou en tout cas ne montent pas pour l'instant. Puis il y a les tensions aussi, au Proche et Moyen-Orient qui baissent. Est-ce que tout ça va continuer à baisser? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, investisseurs particuliers, Thomas?
Là, aujourd'hui, on a besoin que les tensions baissent, hein, surtout au Moyen-Orient. On l'a vu qu'il ne s'est rien passé ce week-end, les gens sont beaucoup plus confiants, on est beaucoup plus relax. Mais c'est vrai qu'on a d'autres problèmes à côté qui sont des problèmes liés quand même globalement au marché qui finalement nous ont un petit peu traumatisés depuis quelques jours, puisqu'on a dû changer notre perspective, changer notre manière de voir les choses. On a dû quand même, depuis une semaine, faire le deuil, entre guillemets, de cette baisse des taux attendue et prévue aux États-Unis depuis des mois. Et on est passé à autre chose, on s'est rassuré en se disant qu'on allait se concentrer sur l'excellente économie américaine, sur les excellentes performances des sociétés américaines. Et puis là, on se rend compte que finalement, les chiffres sont plutôt bons, parce qu'on l'a vu la semaine dernière que c'était plutôt bon en termes d'attente et en termes de chiffres. Le seul problème, c'est que les sociétés elles-mêmes n'ont pas de visibilité, comme nous, on n'en a plus aujourd'hui. Et cette absence de visibilité sur le futur fait que tout d'un coup on doute, et on l'a vu sur la ASML, on l'a vu sur Taiwan Semiconductor, et puis surtout on l'a vu, et c'était l'exemple le plus flagrant lié à l'IA, puisque Supermicro la semaine dernière a simplement annoncé, est venu faire ce qu'on appelle un pré-annoncement pour ses prochaines publications des résultats, et depuis quelques mois les boîtes d'intelligence artificielle comme Nvidia ou comme Supermicro viennent nous faire des annoncements dithyrambiques en disant ça va être formidable, on va faire des chiffres fantastiques. Et là, on attendait de nouveau un pré-annoncement fantastique de SMCI, de Supermicro, qui sont arrivés vendredi dernier en disant oui, on va publier nos chiffres le 30 avril. Mmh. Et puis plus rien. Et on attendait beaucoup plus. Le fait qu'ils disent rien, ils n'ont pas dit que ça allait mal, ils n'ont pas dit que ça allait être une catastrophe, mais ils n'ont pas dit que ça allait être extraordinaire non plus. Donc, le marché qui aujourd'hui, comme le disait l'intervenant précédent au niveau de la psychologie de marché, on a peur, on a de nouveau peur, on a quitté notre zone d'extrême greed, là où on était il y a encore quelques semaines, et aujourd'hui on a peur. Donc quand tout d'un coup on vous donne quelque chose comme ça, ou plutôt l'absence d'informations rassurantes, eh bien ça lâche, vous êtes à la veille du week-end, on ne sait pas ce qui va se passer au niveau du Moyen-Orient, et ça lâche. Donc on a eu un bain de sang technologique qui était... Alors maintenant, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, tout le monde vous dit « Oui, mais c'était attendu, on savait que ça devait se produire. » C'est phénoménal, parce que tout le monde savait que ça allait baisser, comme tout le monde savait que ça devait monter. Et puis maintenant, on se dit « Quid de la suite ?» Et ce matin, ce qui est encore plus formidable, c'est qu'on se dit « Ah, ça va beaucoup mieux au Moyen-Orient, et les tensions baissent, donc le marché peut respirer, et on parle éventuellement d'un rebond. » Donc on voit toujours, et encore, qu'on a une vision extrêmement court-termiste et qu'on a beaucoup, beaucoup de peine à se projeter pour l'instant, et c'est ce qui crée cette incertitude dans les marchés. Alors, est-ce que ça va baisser encore? Bien malin qui pourrait le dire. D'un point de vue purement technique, c'est pas beau ce qui est en train de se passer, et j'ai presque envie de dire autant qu'on nettoie encore un petit peu avant de rebondir.
qu'on nettoie encore un petit peu, ça se matérialiserait de quelle manière sur les marchés ?
Bah, alors, d'un point de vue purement technique, parce que fondamentalement, aujourd'hui, on sait qu'on attend plus grand-chose du niveau macro. En fait, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que dans l'investissement, aujourd'hui, on a trois piliers. On dit toujours qu'on a trois piliers. On a la macroéconomie, on a la microéconomie, et puis on a la géopolitique. Et depuis quelques temps, si on regarde ce qui se passe dans les marchés, les gens se concentrent principalement sur la macro. On a beaucoup parlé d'inflation, on a beaucoup parlé de croissance économique. Et puis là, on se rend compte que l'inflation, elle est difficilement... On a de la peine à la battre. Alors, les Européens s'en sortent mieux que les Américains, mais aux États-Unis, ils ont de la peine. On voit aussi, de l'autre côté, que le prix à la pompe ne baisse pas. On voit que les matières premières sont en train d'exploser. On a vu encore le cacao qui a pris 20% la semaine dernière. Évidemment, on se nourrit pas tous de cacao, mais enfin bref, ça fait quand même mal. Et puis donc, on a tout ça qui part à la hausse. De l'autre côté, sur le côté micro, les chiffres sont bons. Mais on sent une certaine instabilité de la part des sociétés qui ne savent pas vraiment où elles vont. Et puis pour terminer, eh bien, vous avez le dernier pilier, la géopolitique, dont on a eu le talent de se moquer pendant plusieurs mois. Et tout d'un coup, on se dit, mon Dieu, que pourrait-il se passer ? Et c'est vrai, quand on dit aujourd'hui les tensions au Moyen-Orient vont mieux, il faut être honnête, ils se détestent toujours autant. Hein. Donc a priori, c'est pas parce qu'ils se sont rien mis sur la figure pendant le week-end que c'est terminé. Oui. Donc on espère que ça va se calmer et puis que c'est juste momentané. Mais globalement, on voit quand même que le marché pourrait être, et je mets ça au conditionnel, pourrait être victime d'une nouvelle incertitude si ça se prolongeait comme ça. Maintenant, si ça doit baisser encore, on voit assez facilement que les marchés sont très sensibles aux moyennes mobiles. Donc on peut aller chercher encore, on dirait, 5-7% plus bas pour aller chercher les moyennes mobiles, puis dire on a nettoyé finalement, on a fait craquer les gens. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que le syndrome contrariant dont je parlais déjà dans une précédente émission, aujourd'hui, les gens sont de nouveau en train de retourner la veste dans l'autre sens. Il y a deux semaines, on était très très positif, et là, on est déjà en zone très très négative avec beaucoup de peur. Donc la volatilité remonte, les gens ont moins d'appétit au risque, on réduit l'exposition, ça pourrait encore peser quelques temps, mais effectivement, ces trois piliers sont tous à un niveau d'instabilité assez élevé, chose qu'on n'a pas vue depuis bien longtemps.
Merci beaucoup Thomas Veillé pour votre regard sur, eh bien, vous l'avez dit, nos trois piliers macro, micro, géopolitique, ce qui fait bouger les marchés. Est-ce que ça va continuer à baisser ? Est-ce qu'effectivement les performances liées à l'IA vont continuer à soutenir les marchés ? On aurait pu parler de l'or avec vous. On fera le point sur l'envolée du prix de l'or en fin d'émission, parce que cette envolée, elle reste aussi globalement assez inexpliquée par ces piliers, par ces fondamentaux classiques. C'est pas l'inflation, c'est pas les taux réels, et c'est pas tout à fait l'aversion au risque qui explique l'envolée de l'or. Il y a d'autres choses. Ces autres choses, nous les discuterons, nous les évoquerons, nous les décortiquerons avec Jean-François Faure du groupe Au Coffre dans trois quarts d'heure. Merci Thomas. Thomas depuis la Suisse, investir.ch, l'équipe qu'on salue, à retrouver aussi sur leurs différents supports. Et puis cette chronique est à retrouver sur LinkedIn, sur bfmbusiness.com, sur notre site et l'application. Thomas Veillé qu'on retrouvera la semaine prochaine. Pour l'heure, nous allons marquer une petite pub. Vous êtes très nombreux et nombreuses à réagir ce matin, notamment au sujet de l'assurance vie, de ce qu'on peut faire avec son assurance vie, de ce qu'on ne peut pas faire avec son assurance vie. On va essayer de vous répondre avec Alice Labou vers 11h30 parce qu'on va parler de ces situations où on vous force une assurance vie, on vous la suggère très fortement, vous êtes coincé dedans. Ces sujets très pratico-pratiques, on va les aborder tout à l'heure, dans une grosse demi-heure. Avant ça, nous parlerons immobilier. Et puis, vous l'avez entendu, en fin d'émission, nous ferons le point sur l'or. A tout de suite, après une courte pub.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumaud.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, de votre culture économique. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web tous les jours, de 10h à midi. On est aussi en podcast. Bonjour à vous tous qui nous écoutez en dehors de nos frontières françaises. Au programme de l'heure à venir, l'immobilier, avec le patron du réseau L'Adresse, Brice Cardi. Nous allons prendre le pouls du marché immobilier. Marie-Cœur de Roy nous rejoint dans quelques minutes. Le question-réponse du jour sera avec Alice Labou, la présidente de Trecento AM. Elle va nous prendre par la main et nous aider à résoudre ces situations. Par exemple, celle où le banquier vous pousse à ouvrir un contrat d'assurance vie, mais vous avez peur d'y aller parce que vous ne voulez pas bloquer votre argent et surtout, vous ne voulez pas ne pas pouvoir en disposer si vous en avez besoin. Que faire ? Alice aura des réponses ainsi que peut-être une réponse pour Xavier qui m'a écrit sur LinkedIn dans le prolongement de notre sujet sur l'assurance vie. Il nous demande si c'est possible d'ouvrir un deuxième compte dans un autre établissement pour se libérer de ce problème de transfert, la non-transférabilité de l'assurance vie dont nous parlions en début d'émission. On fera le point sur l'envolée du prix de l'or, envolée qui reste globalement inexpliquée par ce qu'on appelle les fondamentaux, les classiques, c'est-à-dire l'inflation, les taux réels ou l'aversion au risque. C'est Jean-François Faure du groupe Au Coffre qui viendra décrypter cette envolée de l'or. On va reparler du rôle des banques centrales, à mon avis. Au programme, il y a vous, comme Xavier, comme Julien, vous nous écrivez à l'adresse directe @bfmbusiness.fr. Vous m'écrivez aussi sur LinkedIn. Il y a Vincent aussi qui me pose des questions sur l'IFI. Nous allons nous occuper de vos impôts dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à nous adresser vos situations, vos questions. Nos experts se mobilisent pour vous éclairer dans cette période de déclaration fiscale. Nous partons à Euronext rejoindre Antoine. Cher Antoine, on vous retrouve avec en toile de fond une drôle de séance, hein, avec un CAC 40 inchangé, désormais l'incertitude qui s'installe, hein, et qui domine.
Oui, encore une fois, puisque depuis le début de séance en belle hausse, hein, 0,5-0,6% de progression, on avait même du plus 0,8% en avant-marché, et puis on est revenu sur des points d'équilibre. On était même en légère baisse encore il y a quelques minutes, là on se redresse très légèrement, plus 0,09% à 8029 points. Mais encore une fois, une tendance très très fragile, et là pour le coup, il n'y a pas de pointe de risque géopolitique, il n'y a pas de gros chiffres macroéconomiques, non, c'est juste un petit coup de mou, et la prise de conscience déjà que la semaine va être extrêmement chargé, on en a beaucoup parlé en première heure, il va y avoir énormément de publications de résultats, donc on se veut prudent. Il y a aussi la prise de conscience que la prime de risque géopolitique, elle est peut-être repartie à court terme, mais qu'elle reste toujours extrêmement présente, bien entendu. Et puis du côté des autres places européennes, on a quand même un DAX à Francfort qui a tendance à être un petit peu plus ferme, plus 0,44%, et ça nous donne un Eurostock 50 qui gagne 0,24%, tout simplement, encore une fois, parce que le luxe se remet à poser. Sur le CAC 40, on a L'Oréal qui perd 0,53%, 442,60€. Hermès, moins 0,34€ à 2312€. On attend les chiffres d'ailleurs d'Hermès et de Kering, chiffres d'activité cette semaine. Et après des belles performances sur la semaine écoulée, il y a peut-être la tentation de quelques prises de profit. À noter Schneider Electric qui signe la plus forte baisse du CAC à moins 0,74%, 206,85€. Sinon, quelques fortes baisses à signaler sur le SBF 120. Trigano, moins 5%, on est à 142€. On a GTT, moins 3% à 134,80. Ou Sartorius Stedim, qui subit vraiment une déconvenue boursière là depuis une grosse semaine. Moins 2,44 à 195,70€. A signalé quelques belles performances. Elior, plus 4,33 à 2,41€. Plus forte hausse du CAC et du SBF 120. Ubisoft, plus 3,32 à 21,76. Et Worldline, plus 3,29 à 9,81. Le CAC, donc, plus 0,09%. 0,1% là, à l'instant. 8030 points. Et l'euro, tiens, l'euro, 1,0659.
Tiens, on va reparler de l'euro parce que là aussi, il y a une drôle de situation à décortiquer. C'est votre histoire financière, tout de suite.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Un point sur l'euro-dollar avec vous, Antoine. Drôle de situation aussi, puisque on a quand même une tendance très ferme. Et pourtant, rarement, les investisseurs n'auront été aussi pessimistes, aussi négatifs. Il nous voit même revenir à parité sous peu, expliquez-nous.
Peut-être encore moins d'ailleurs, hein. comme à fin 2022, on s'en souvient, c'est la dernière fois que c'était arrivé. Mais si on regarde bien d'ailleurs depuis le début de la séance, on a un tout petit peu de volatilité qui revient. On était du côté d'un 0,680 un petit peu plus tôt ce matin, là on descend, un 0,650, un 0,660, on se cherche, on se tâte et il y a quelques signaux de fragilité assez nets. Alors c'est vrai que depuis quelques temps et depuis qu'on a la conviction de ce découplage qui est en train de se former entre entre Europe et États-Unis, c'est-à-dire des États-Unis où l'économie reste très, voire trop dynamique et l'inflation a du mal à se résorber, et une Union européenne où, au contraire, là, tout semble réglé et la fenêtre de tir semble vraiment favorable pour la BCE pour baisser ses taux dès le mois prochain. On a quand même, le mois d'après plutôt, on a quand même la conviction qu'il va falloir prendre en compte tout cela dans les taux de change. Jusque-là, l'euro-dollar n'avait pas trop souffert, on reste à 1,06, 1,07 et on ne bouge pas trop. Mais pour l'avenir, les investisseurs voient carrément, effectivement, euro et dollar revenir à parité. Ils étaient à peu près aucun, hein, en début d'année, à voir le scénario revenir à l'ordre du jour. Ils sont 10% là en ce moment, si on fait la moyenne de leur position, sur les contrats de couverture, hein, sur l'euro-dollar. Donc là, on peut dire qu'ils s'attendent à ça sur le marché cash. Bah, tout simplement parce que voilà, les perspectives de taux sont nettement en faveur du dollar. Le dollar qui bénéficie aussi d'un attrait accru à cause de la prime de risque géopolitique, il fait partie d'une des valeurs refuges disponibles sur le marché. Et puis troisièmement, il faut bien reconnaître que nous, en tant qu'Européens, on est importateurs nets d'énergie à plus savoir qu'en faire, et que le dollar, c'est la monnaie forte d'un produit producteur. Et ça risque d'avoir un effet supplémentaire qui risque de tasser véritablement l'euro vers les plus bas et donc vers un scénario qui nous ramènerait à la parité, voire même en dessous.
Et oui, hein. Et puis avec la sous-performance de l'économie américaine qui effectivement est liée sans doute à cette situation des États-Unis qui sont importateurs nets d'énergie fossile. Ça c'était avant, et qui maintenant sont exportateurs nets. Donc c'est sûr que tout ça en dollars, ça aide. Merci beaucoup pour ce point, Antoine. Cette histoire financière à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et Antoine qu'on retrouve régulièrement pour surveiller ce qui se passe du côté de notre CAC 40. Vous parliez des parités, de la parité euro-dollar. Je vous précise que notamment en ce qui concerne les devises asiatiques, eh bien presque toutes les devises s'effondrent face au dollar. Et je vous donne un exemple, c'est celui du dong vietnamien qui a atteint son plus bas historique face à l'US dollar la semaine dernière. Voilà, ces sujets de Forex, on continue également à les décrypter dans Tout pour investir et puis aussi parfois un petit peu dans BFM Bourse à partir de 15h30 tous les jours. Merci Antoine. Dans quelques secondes, c'est l'heure de l'immobilier avec Marie Cœur de Roi. Nous allons prendre le pouls de l'immobilier. On va se demander si ça va mieux. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir. La place de l'IMO.
La place de l'IMO tous les jours dans Tout pour investir. Nous allons prendre le pouls de notre marché immobilier. Docteur Marie est arrivée. Bonjour Marie Cœur de Roi.
Oh bon, bonjour Lorraine.
Nous sommes accompagnés de Brice Cardy ce matin, le PDG de l'Adresse. Bonjour Brice.
Bonjour Lorraine.
Est-ce que ça
Marie.
Va mieux
oui, quand même, hein, Brice.
Est-ce que ça va mieux? Marie me dit, voilà, il faut qu'on prenne le pouls. Bah, alors, est-ce que ça va mieux?
La dernière fois qu'on s'est vu, il me semblait qu'on parlait de frémissement.
Et alors là, ça continue de frémir.
Non, mais j'aurais envie de faire un comparable. C'est pas la première fois sur la météo. On a eu des coups de chaud, on a de belles éclaircies. Il y a encore certains nuages. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est que ça soit vendeur ou acquéreur, nos clients sont frileux. À l'image du temps qu'il fait actuellement, il fait beau, mais il fait très froid. Ils sont très frileux, ils ont besoin qu'on les réchauffe, ils ont besoin qu'on les rassure. Donc c'est très compliqué. Le marché est compliqué, mais en effet, on a le retour, on a de bonnes nouvelles. On a le retour qui est confirmé des primo-accédants. Mais avec, rappelons-le, la difficulté qui est toujours la même, à savoir que les primo-accédants, bah, généralement quasiment à 100%,
mise en empreinte.
Il passe par la case crédit. Et qu'aujourd'hui, grâce justement à beaucoup de médias, la publicité qui est réalisée par différentes banques, en effet, les vannes s'ouvrent à nouveau. On peut constater que les primos sont de retour. Donc ça, c'est c'est la très bonne nouvelle. La difficulté, en revanche, c'est d'aligner les planètes.
Entre les acheteurs et les vendeurs. Non, mais juste d'abord, on va rester un tout petit peu sur les acheteurs, Brice, avant de passer aux vendeurs, mes amis. Les acheteurs, on dit effectivement les baisses de taux, elles sont réelles, elles sont pas dingues, mais elles sont réelles par rapport à la fin de l'année dernière. Depuis ce premier trimestre et ce deuxième trimestre qui a été entamé en avril là, on en est où dans leur capacité d'achat? Vous nous dites ça y est, il y a un retour des acheteurs et des primo-accédants. Est-ce que on peut vraiment dire que là ils sont désormais en capacité de passer à l'acte et qu'ils ne l'étaient pas en fin d'année dernière?
Alors ça dépend de quoi et de quelle période on compare les choses. Pour faire très court, vous parlez des taux. Les taux, en effet, la bonne nouvelle, c'est qu'ils se stabilisent, voire en effet, ils baissent. Maintenant, toujours le même exemple. Le prix moyen aujourd'hui en France, c'est 300 000 euros. C'est un peu moins, on va arrondir à 300 000 euros. un couple qui gagne 4200 euros par mois, on lui prêtait en 2021 300 000 euros. Le même couple aujourd'hui, on peine à le financer à 225 000, 230 000 euros.
À l'heure actuelle, hein.
À l'heure actuelle.
Donc, oui, quoi qu'il arrive, donc attendez, là
non,
on
non,
est.
Si je peux me permettre, non, c'est pas quoi qu'il arrive, c'est que on espère un scénario, le meilleur scénario au niveau des taux serait de descendre, enfin d'atteindre les 3% d'ici début d'année prochaine, voire fin d'année. Donc ça veut dire 0,5 de mieux. Ce qu'il faut vraiment expliquer à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que 0,5 de taux d'amélioration, ce n'est que 10 000 euros de gagné auprès de la banque. Mmh. Donc une fois de plus, entre 300 et 225, la difficulté, c'est d'aligner les planètes. Donc l'idée, c'est d'expliquer de la meilleure façon qu'il faut pour rassurer et pas inquiéter les propriétaires, de leur dire la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait logiquement aligner les planètes et vous trouver un acquéreur. La moins bonne, c'est que votre bien est sur un secteur qui concerne aujourd'hui des acquéreurs qui vont mécaniquement, nécessairement passer par la case crédit.
Et qui et ont, bien, quoi cela, qu'il arrive, perdu du pouvoir d'achat immobilier.
Aujourd'hui,
là, c'est vous nous disiez quoi, 3. Alors, je regarde ce que vous avez bossé au réseau L'Adresse, vous avez bossé avec Sandrine Allonnier de chez Vous Financer pour essayer de faire bon an mal an.
Exactement.
Ce qu'on peut s'offrir. On reprend notre ménage qui, en 2021, empruntait 300 000 euros. Si on tombe autour de 3,2%, vous nous dites, on sera en fin d'année, hein, on n'y est pas encore, hein, on est plutôt pas très loin encore des 4%, 3,8, 3,9, ouais, hein, aujourd'hui. Donc si en fin d'année on est à 3,2, ce qui serait quand même génialissime, on ne serait qu'à 244 000 euros de capacité d'emprunt versus 300 000.
Exactement,
il y a deux
c'est
ans,
pour ça que la difficulté, c'est que les vendeurs, et je le comprends parfaitement, ont compris finalement ce qui les intéresse et ce qui les arrange. Donc ils ont gardé, si vous voulez, le prix fort. Le prix fort, il faut revenir en 2021 versus 2022. On est en 2024. On a beaucoup parlé d'inflation avec l'augmentation du blé, etc. Sur le logement aujourd'hui qui pèse, bah vous le savez, énormément sur le budget d'un ménage, bah c'est 400% d'inflation qu'on a eu. C'est très facile à retenir, hein. 2021, c'est 1. 2022, c'est 2. 2023, c'est 3. 2024, on a démarré à 4.
Donc, et justement, alors par rapport à ça, Brice, donc on a des acheteurs qui récupèrent, allez, une dizaine, une quinzaine de milliers d'euros par rapport à la fin de l'année dernière. Ok, c'est une bonne nouvelle quand même. C'est pas un game changer, mais c'est une bonne nouvelle.
Je rappelle qu'on parle uniquement des primo-accédants là, dans cette simulation.
Ah bah non, du
tout. Non,
là,
les primos sont, les primos sont, c'est le profil qui fait qu'un marché est dynamique ou pas. Leur présence sur le marché, c'est ça. En gros, c'est l'impact sur le curseur. Et en effet, c'est pas prendre un grand risque de dire qu'un primo qui sorte, qui part de chez ses parents ou qui part d'un marché d'une location, généralement les primos, on peut pas dire qu'aujourd'hui on est dans une période d'inflation compliquée pour tous les ménages, les premiers concernés, les primos, généralement ils arrivent pas avec 50 000 ou 100 000 euros d'apport. Donc ceux-là, ils passent par la case crédit. Les mêmes à qui on a clairement fermé les portes en 2023, faut le dire, hein. C'est pas du tout un fantasme mal placé, c'est une réalité. Les primos n'étaient plus les bienvenus auprès des banques.
Mais
aujourd'hui ils reviennent avec l'argent qui a changé de camp. Elle est passée de la poche des vendeurs jusqu'en 2022. Elle a basculé côté banque 2024. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, il faut la modérer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'emballer.
Exactement. Et donc, du coup, la corollaire de tout ça, c'est de dire, effectivement, primo, mais quoi qu'il arrive, tous les acheteurs ont récupéré un tout petit peu de capacité d'emprunt par rapport à la fin de l'année dernière.
Oui.
OK. Pas suffisamment pour compenser tout ce qu'on a perdu sur la hausse des prix.
Exactement.
Donc, du coup, on en est où des prix? Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont toujours orientés sur une espèce de baisse un peu modérée? Parce qu'au final, la baisse de 2023, elle n'a pas été dingue. Est-ce qu'on est toujours orienté à la baisse? Ou est-ce que vous avez l'impression, et c'est ce qu'on redoutait depuis le début de l'année et les assouplissements des banques, c'était qu'en corollaire, on puisse avoir des vendeurs qui disent « Oh, bah, moi, je ne vais pas baisser mon prix ». On en est où au niveau des prix?
Alors, pas du tout que je vais me défausser de la réponse, mais depuis qu'on a vécu la période singulière de confinement et autres, les cartes ont été rebattues, elles ont été rejouées, tant mieux. Et aujourd'hui, très franchement, les choses ne se passent pas du tout de la même manière en fonction de quand et où on se trouve.
Bien sûr.
Très franchement, si vous êtes sur un marché, comme je le disais, un marché où vous avez la nécessité d'avoir justement les primo-accédants ou clairement les autres qui vont également passer par la case crédit, c'est une fois de plus extrêmement mathématique et mécanique. Vous n'avez pas d'autre choix que de baisser les prix. Vous modérez l'emballement de la baisse de prix, mais enfin, il me semble quand même qu'ici, on a été les premiers à débattre de est-ce que Paris va dépasser le cap des 11 000 euros. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais je fais partie de ceux qui avaient dit que ça ne dépasserait pas les 11 000 euros. Très franchement, vous dites, ouais, ça baisse pas tant que ça. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question de savoir si on n'est pas en dessous de la barre de 10 000. Donc aujourd'hui, très franchement, ce qu'il faut retenir, c'est que la bonne nouvelle pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'en gros, le temps est à la négo. Parce que je sais ce que je suis
Mais là, vous faites votre agent immobilier, Brice.
Non, je ne suis pas mon agent immobilier.
Mais si.
Je sais parce que je suis bien renseigné que vous pensez, si je peux me permettre, à tort, que le bon, la bonne réflexion, le bon, la bonne stratégie pour les acquéreurs, c'est d'attendre. Je reste convaincu que le temps joue à la faveur de personne. Le temps n'est pas le, l'attente n'est pas le bon choix.
Je reprends votre métaphore, Brice. En début de séquence, vous nous avez dit, je vais faire un parallèle avec la météo. On est frileux. Bon, moi, je vais vous répondre très pro business et très pratico-pratique. Il n'y a pas de mauvais temps. Il n'y a que des mauvais habits. Donc, pour les investisseurs qui sont bien équipés, qui sont bien habillés, qui sont bien au chaud, là, s'il fait un peu froid dehors, on y va et on y va avec quel état d'esprit ?
Ah, ben là, les investisseurs, je ne sais pas si c'est le bon profil dont il faut parler, mais on peut en parler. Les investisseurs, j'ai presque envie de vous dire que c'est pas le profil que je conseille le plus à un vendeur, parce que les investisseurs, aujourd'hui, ils sont sans foi ni loi. C'est-à-dire que les investisseurs, le principe du mot investir, c'est rentabilité. Donc si vraiment on parle des investisseurs, il y en a même certains, ceux-là, bon, on les prend pas nous très au sérieux, c'est parfois certains qui même vous appellent et vous proposent de vous faire une offre sans avoir vu le bien. Un investisseur aujourd'hui qui arrive avec une capacité d'emprunt, c'est-à-dire sans passer par la case clause de financement et d'octroi d'un prêt, généralement c'est pas celui qui va le plus arranger le vendeur.
Pourquoi non ? Bah, il va essayer de négocier
parce qu'il va négocier le prix pour pouvoir obtenir la meilleure rentabilité lorsqu'il va louer son logement ou le revendre. Si
oui, mais en quoi le fait qu'il essaye garantit que ça va marcher ?
Ah non, mais d'essayer, ça fait de mal à personne. Mais véritablement, nous, l'alignement de planète qu'on fait, le meilleur acheteur à conseiller pour un vendeur, c'est l'utilisateur, c'est celui qui va se projeter. Et tout à l'heure, je parlais, alors vous avez raison, en effet, on peut se couvrir avec des habits adaptés, etc. Et à nous, justement, Réseau Immobilier, l'adresse de trouver des outils, des services pour pouvoir mieux les couvrir, sans vouloir jouer avec les mots, et mieux les garantir sur les semaines et les mois à venir. Quand je parlais de frilosité, c'est qu'aujourd'hui, le moindre prétexte peut être prétexte à annuler ou à revoir le projet. Et des projets parfois engagés et parfois bien engagés.
Non mais Brice, c'est pour ça que je dis que vous faites l'agent immobilier.
C'est ce que je suis. J'assume parfaitement. Je suis agent immobilier avant d'être président du réseau.
Non, mais à dire, faut pas attendre. Évidemment, moi je suis la première à dire, de toute façon, le bon moment pour acheter, c'est le vôtre. Donc voilà. Mais le fait est qu'aujourd'hui, vous avez effectivement des vendeurs qui peinent à accepter de baisser les prix et qui préfèrent limite devenir, à moyen long terme, un vendeur pressé qui t'a accepté n'importe quoi, parce que pendant un moment, il ne veut pas perdre la face. Et donc, la difficulté pour un acheteur, vous dites qu'il faut négocier, évidemment, le meilleur acheteur, c'est évidemment pas l'investisseur qui s'y connaît, en fait. C'est l'accédant. Hein. Donc, à un moment donné, moi, je suis accédant, primo ou pas. Je me rends compte des difficultés à convaincre le vendeur. Je fais comment, si ce n'est attendre que le mec finisse par se dire ça fait trop longtemps. Quoi.
Bah, vous passez par un agent immobilier, vous ne parlez pas au vendeur, vous passez par un agent immobilier, excusez-moi d'être en boucle.
Et donc, votre boulot aujourd'hui, Brice, très clairement, c'est de dire au vendeur, à un moment donné, il va falloir que le prix baisse. Donc, on est bien d'accord là-dessus.
Mais on est complètement d'accord là-dessus.
Mais vous les constatez. Moi, ma question, c'est est-ce que vous constatez ces vendeurs qui freinent, qui...
Ah, bien sûr qu'on les constate. Je peux même vous donner les exemples, justement, d'agents immobiliers, notamment à Vitry-sur-Seine. Pourtant, il y a le métro qui est en train d'arriver. À Vitry-sur-Seine, j'ai une agence depuis maintenant une quinzaine d'années. Eh bien, on a un ou deux vendeurs qui ont voulu jouer le côté, le fameux je suis pas pressé. Ouais. Si demain, on devait écrire une pièce de théâtre ou un film sur l'immobilier, moi, personnellement, le titre, je le connais, c'est je suis pas pressé. Et très franchement, on en a certains qui, sur le fait d'avoir attendu un an, parce qu'il y avait pas forcément une obligation dans le projet de la réalisation, sur un an, ils ont perdu 20%. Et pas forcément sur des produits type les fameux dont on parle depuis souvent, les passoires énergétiques, ouais, etc. On parle de produits même atypiques avec un bout de terrasse, etc. Ben sur ces mêmes produits-là, le fait d'attendre, c'est moins 20% pour le vendeur dans sa poche.
Je vous renvoie à la séquence de finances comportementales que nous avons fait il y a une grosse heure sur ce qu'on appelle l'effet de disposition, à retrouver en podcast et en replay sur notre site avec Julien Nebenzal. C'est cette tendance des investisseurs à vendre trop tôt ou surtout à conserver trop longtemps des actifs dont la valeur chute.
Ouais, mais c'est exactement ça, Lorraine.
C'est exactement ça. Non, le vrai sujet aujourd'hui, c'est l'acquéreur. C'est l'acquéreur qui pourrait, à tort ou à raison, se contenter de voir, en effet, la phase la plus visible de l'iceberg. C'est quand des médias comme le vôtre, et on ne va pas les condamner, je suis le premier à vous dire aujourd'hui, le marché mécaniquement doit et va baisser. En sortant, une fois de plus, toutes les exceptions qu'on connaît, l'attrait de la Riviera, PACA, etc. Ouais, etc. Bref, prenons vraiment ce qui concerne aujourd'hui les Français et les Français, c'est-à-dire le côté macro. Au niveau macro, en effet, c'est d'expliquer aux acheteurs pourquoi c'est le bon moment. Ben, je répète, je suis désolé, je fais mon agent immobilier, que je suis. C'est le temps de la négo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut quand même pas se oublier que pendant presque 8 années d'affilée, les acquéreurs ont complètement perdu la main. C'était limite, moi je vous le dis, c'était extrêmement frustrant pour eux et pour nous en tant qu'acquéreurs. Vous appeliez, on vous disait,
votre métier,
vous prenez le rendez-vous, vous arrivez, on préfère vous prévenir, il y a une offre, vous arrivez, finalement il y avait une espèce de frustration. Pareil, je passe d'un sujet une fois de plus, parce que je sais que ça a été l'objet d'une interview ici, sur aujourd'hui, en effet, il y a des annonces qui viennent un peu piper le marché en disant, finalement, à certains endroits, voire même globalement, le marché repart.
Ouais.
Mais l'annonce, Ça ne veut pas dire le prix signé.
Ah, mais ça, je l'ai bien dit. Alors, Brice, on va se dire très franchement les choses. C'est-à-dire, il y a une grosse décorrélation entre le prix affiché et le prix d'un bien réellement vendu. C'est là où je veux vous emmener, Brice. C'est-à-dire de voir la frilosité de façade des vendeurs qui se rendent bien compte que s'ils veulent vendre, au final, les biens qui se vendent, ce sont des biens qui sont avec des décors.
Eh bien, vous faites bien de m'amener parce que justement, vous m'embarquez. Je vais vous répondre de manière très claire. On a un constat aujourd'hui, c'est vachement intéressant, parce que l'idée, c'est quand même d'humaniser les comportements dans les acquisitions, pas de se contenter d'aller des chiffres avec Excel. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les Français, ils ne veulent pas être déçus, ils ne veulent pas être frustrés. Donc un Français, quand il visite un bien, en gros, il se fixe lui-même son seuil de négociation. Et uniquement sur certains biens, parce qu'on a, nous, des informations, parce qu'on sait qu'on est en train d'entamer un vrai travail de négociation auprès du vendeur, et on sait quelque part qu'on y est presque, à nous, quand on les relance, de leur dire « Je sais, vous êtes fixé 4-5% au-dessus de votre budget, pas plus, parce qu'en gros, vous pensez que c'est la marge de manœuvre qui est réelle. » Mais sur ce type de bien, on vous invite vraiment à venir le voir, vous ne regretterez pas. En gros, pour vous dire que de surestimer un bien, parce que c'est Daniel qui a parlé, qui vous dit finalement, l'oiseau rare, on va l'avoir dans l'agence, et vous allez vendre ce bien 5-6% limite avec une augmentation, ce n'est pas le bon choix. Bon. Parce que, une fois de plus, les acquéreurs, ils se freinent eux-mêmes. En fait, un bien aujourd'hui, entre ce qu'il est diffusé et ce qu'il est négocié, la marge, il y a certains qui peuvent aller parfois jusqu'à 8-9%, mais généralement, la négociation, elle se fait avant par l'agent immobilier. C'est nous qui l'avons.
Très rapidement, parce qu'il nous reste une demi-seconde, perspective de prix, de volume de transactions et de délai de vente, selon vous, Brice, pour cette année 2024.
Rapidement, rappel, très vite, déjà de constater que ce qui est parti un peu à volo, c'est à l'aube du deuxième semestre de 2023, avec un printemps extrêmement médiocre déjà à l'époque, mais le constat s'est fait sur les compromis qui est tardé déjà avec tout ce qu'on sait, la filière qui est grippée, etc. Mais le vrai constat, c'est que le décrochage s'est fait au deuxième semestre 2023. Aujourd'hui, force est de constater, c'est la bonne nouvelle, c'est que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, les primos qui sont de retour, les banques qui ouvrent les vannes, qui le font savoir, etc., on a aujourd'hui au premier trimestre 2024 plus que des frémissements qui apportent la preuve que ça va beaucoup mieux que de la façon dont on a terminé l'année. Je parle d'appels, de visites et d'offres. En revanche, ça reste extrêmement modéré. Actuellement, nous, au niveau du réseau, si on constate le premier trimestre 2024, c'est moins 15%. Mais une fois de plus, avec
volume
beaucoup
de
disparition de volume de vente, si je le compare avec la même période en 2023. Je pense que le vrai comparable intéressant, c'est celui dans lequel on rentre. Parce qu'on va pouvoir comparer finalement une mauvaise année en 2023 avec une année 2024. Est-ce qu'elle reste mauvaise?
Ou un peu meilleure. Donc, perspective quand même, baisse de transactions encore pour cette année?
Alors, pour l'instant, malheureusement, au niveau des volumes, je le sais parce que la FNAI, on en a parlé il y a quelques temps, annonce que les baisses seront, enfin que les volumes seront moins bons en 2024 qu'en 2023. Je reste convaincu qu'il va y avoir une situation de rattrapage par rapport à tous les projets qui ne se sont pas réalisés en 2023 et qui, avec les banques et avec des professionnels aguerris, vont permettre en termes de volume d'être mieux que 2023. Donc je pense sur les volumes que ça ne sera pas aussi catastrophique que ce qu'on imagine. En revanche, au niveau des prix, je reste convaincu, avec toutes les nuances qu'il faut avoir en fonction des disparités de là où on se trouve, du type de bien concerné, que mécaniquement, nécessairement, avec des taux stabilisés ou même qui baisseraient de 0,5, on va obligatoirement être sur une baisse de prix.
Voilà, merci beaucoup Brice Cardy, le PDG de l'Adresse, et Marie Carderoy pour cette prise de pouls immobilier. Merci de nous avoir donné un petit peu de... pas de l'espoir, j'allais dire du grain à moudre. À demain pour une autre séquence d'immobilier. À suivre, on va parler de votre assurance vie et on va parler d'or. À tout à l'heure.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumaud.
Tout pour investir et faire bon usage de votre assurance vie. Nous sommes avec Alice Labou. Bonjour Alice.
Bonjour.
Vous êtes présidente de Trecento Asset Management. Avec nous pour traiter des cas très pratiques, hein, de situations où on vous propose une assurance vie, vous voulez y aller, vous avez peur, bref. Mais aussi répondre aux nombreuses questions que vous nous adressez depuis le début de cette émission, car nous avons traité dans la première heure le sujet de la transférabilité du PEA. Nous avons également évoqué la non-transférabilité de l'assurance vie et ça vous inspire moult questions. Alice va répondre à quelques-unes, évidemment, si on le peut, dans le temps imparti, évidemment, dans l'espace de réflexion aussi limité dans lequel nous sommes. D'abord, un cas pratique, si vous voulez bien, Alice. Ça va parler à ceux et celles qui nous écoutent. Mon banquier me pousse à ouvrir un contrat d'assurance vie, mais j'ai peur de bloquer mon argent et de ne pas pouvoir en disposer si j'en ai besoin. Ça vous parle sans doute, cher auditeur. Que fait-on ?
Alors d'abord, votre banquier a raison. C'est-à-dire que c'est une bonne idée d'ouvrir un contrat d'assurance vie et on va volontiers expliquer pourquoi. L'idée, c'est vraiment de se dire que l'argent n'est pas bloqué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de légende urbaine autour de la thématique de l'argent est bloqué pendant 8 ans, donc j'ai pas envie de mettre cet argent de côté. Si jamais j'en ai besoin, je souhaite pouvoir en disposer. La bonne nouvelle, et maintenant, on commence à le savoir, mais c'est important de le dire et de le redire, votre argent n'est absolument pas bloqué. Dès le lancement de votre contrat d'assurance vie, vous pouvez récupérer toute ou partie des sommes investies et même des bénéfices que vous avez potentiellement réalisés. Ce qui va faire la différence, pourquoi est-ce qu'on parle de ces fameux 8 ans dans les contrats d'assurance vie? C'est juste la fiscalité, c'est-à-dire que vous allez payer plus d'impôts sur la plus-value avant les 8 ans et moins d'impôts sur la plus-value après les 8 ans. Mais la différence n'est pas si énorme que ça, puisque avant les 8 ans, si jamais vous retirez de l'argent, donc tout ou partie de l'argent, c'est seulement la plus-value qui va être imposée. Ça, c'est très important de le dire, c'est pas l'argent que vous avez mis initialement qui va être imposé. Heureusement, parce que vous avez déjà payé plein d'impôts pour mettre des sous de côté. Donc je pense que là, on est bon. Donc quand vous générez de l'argent au sein du contrat d'assurance vie, cette fameuse plus-value, avant les 8 ans, va être imposée soit à ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire à 30%, soit à votre impôt sur le revenu. Donc si vous êtes imposé par exemple à 15% en impôt sur le revenu, vous avez intérêt à choisir d'être fiscalisé en impôt sur le revenu et pas en flat tax à 30%. Après les 8 ans, c'est un peu différent. C'est 24,7% d'impôt sur la plus-value ou à nouveau votre taux d'imposition personnel sur le revenu. Donc à nouveau, si vous payez moins que 24,7% en impôt sur le revenu, vous avez intérêt à opter évidemment pour votre impôt sur le revenu. Donc en fait, ces fameux 8 ans, c'est juste une histoire fiscale, mais ça n'a aucun impact évidemment sur votre obligation de conserver l'argent dans le contrat. Donc ça, c'est fondamental.
Dans le cas qu'on évoque, on n'a pas d'assurance vie, on a du cash à placer, on a peur de bloquer son argent. Donc, si on vous a bien écouté, on comprend qu'il n'est pas bloqué, qu'on peut y recourir si on en a besoin. Pourquoi est-ce qu'on arbitrerait a priori en faveur d'une assurance vie plutôt par exemple qu'un PER qui offre un ensemble de conditions favorables de cas de déblocage anticipé?
Oui, alors c'est pas tout à fait la même chose. Si vous voulez, le plan d'épargne retraite a vocation à préparer votre retraite. Donc, a priori, vous devez laisser cet argent pendant un certain temps. Donc oui, il y a des cas de déblocage anticipé, mais ils sont quand même assez minimes au regard de l'assurance vie. Il suffit que vous envoyez un papier de rachat à votre compagnie d'assurance vie et vous récupérez votre argent. Je pense que la combinaison des deux est plutôt intelligente. Alors, le plan d'épargne retraite, il n'y a pas d'avantage successoral. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas évoqué là, mais vous savez qu'un contrat d'assurance vie, pourquoi votre fameux banquier sur la question numéro 1 disait il faut que vous ouvriez un contrat d'assurance vie, tout simplement parce que dans le cadre de la succession, s'il vous arrivait quelque chose, il y a jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire que vous aurez désigné dans votre contrat d'assurance vie en totale franchise de droits de succession. C'est-à-dire que vous ne paierez pas d'impôt sur les successions, et Dieu sait que ça peut être assez violent parfois, vous ne paierez pas, en tout cas pour chaque bénéficiaire, jusqu'à 152 500 euros. Alors qu'un plan d'épargne retraite, ce n'est pas du tout le même système. C'est-à-dire que vous n'avez aucun avantage fiscal en matière de succession, et puis ce n'est pas dit que vous, selon le type de plan d'épargne retraite, ce n'est pas dit que vos héritiers récupèrent l'argent que vous avez mis de côté pour votre plan d'épargne retraite. On sait très bien qu'à l'époque du Madelin, c'est-à-dire c'est l'ancêtre du plan d'épargne retraite, il y avait cette problématique. Il y a des gens qui ont mis plein d'argent de côté et qui malheureusement sont décédés peu de temps après la retraite. Et bien toute la rente Madelin est restée à l'assureur. D'ailleurs, ça leur a fait. Enfin voilà, ça a été plutôt des avantages non négligeables pour les assureurs, alors que les héritiers n'ont rien touché. Donc c'est pas du tout les mêmes outils. Les deux ont des avantages, mais on ne peut pas substituer l'un à l'autre.
Voilà, on l'entend parfois, la combinaison est une solution. Autre question. Question très pratico-pratique, et je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs, auditrices, se la posent ou se la sont posées il y a quelques mois. Mon contrat d'assurance vie ne rapporte rien. Est-ce que je dois changer d'assureur? Je dirais même, est-ce que je peux changer d'assureur? On va parler de transférabilité.
Exactement. Alors, la question de la transférabilité, évidemment, est centrale. Malheureusement, aucune décision n'a été prise en ce sens. Il en a été question dans le cadre de la loi Pacte, mais finalement, la puissance et la détermination des assureurs à mettre en place une non-transférabilité a fonctionné, puisque non, vous ne pouvez pas transférer votre contrat d'assurance vie. Alors, une fois que vous l'avez ouvert. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même que vous pouvez en ouvrir plusieurs.
Oui.
Donc vous pouvez dire, bah, moi je ne suis pas content de ce contrat, donc je préférerais ouvrir un autre contrat ailleurs, et donc vous ouvrez un second, un troisième, un quatrième. Il n'y a pas de règle en matière de nombre de contrats d'assurance vie, simplement ça oblige à disposer du cash, évidemment, pour réouvrir un contrat, donc, ou alors retirer de son contrat pour remettre dans l'autre, mais c'est rarement recommandé. Mais ça peut totalement se faire si on n'est pas content de la relation. Voilà, la seule transférabilité qui a été mise en place, c'est celle des commission, c'est-à-dire que en fait vous pouvez choisir de changer d'intermédiaire et que le nouvel intermédiaire, donc par exemple vous avez un conseiller en gestion de patrimoine, vous avez ouvert avec lui un contrat d'assurance vie. Évidemment, vous savez qu'il touche des commissions sur votre contrat d'assurance vie. Bon, vous n'êtes plus content du service, il ne vous répond plus au téléphone, ça se passe pas très bien, ce qui peut arriver parfois. Vous vous dites, bah vous rencontrez quelqu'un d'autre qui vous plaît bien et avec qui vous avez envie d'avoir une vraie relation de conseil. Et bien là, vous demandez à l'assureur de changer en fait de référent en matière d'intermédiation, et donc les commissions peuvent arriver à ce nouvel interlocuteur. Alors ça peut prendre 6 mois, 12 mois, enfin voilà, ça peut être un peu long, voilà, exactement. Néanmoins, ça c'est possible. Donc sur le premier volet de la transférabilité, ça n'est pas encore le cas. Je pense que c'est bien dommage, parce que je crois qu'on a le droit de disposer de son épargne. Je vois pas pour quelle raison, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, on a travaillé beaucoup pour mettre des sous de côté, on a payé beaucoup d'impôts sur le chemin, donc je pense que c'est bon, on a le droit de disposer de son propre argent. Néanmoins, pour l'instant, c'est pas tout à fait possible. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son assureur et son intermédiaire. Après, au sein du contrat, si on me dit Alice, je trouve que je gagne rien, j'en ai marre de gagner 1% par an, j'ai mis plein de sous et puis finalement je gagne rien, ça m'intéresse plus l'assurance vie.
1% même, vous perdez.
Voilà, alors avec l'inflation, bien sûr, vous perdez. Alors, moi en général, je réponds qu'est-ce que vous avez choisi de mettre au sein de votre contrat d'assurance vie, parce que l'assurance vie c'est comme le PER, c'est juste une enveloppe fiscale en fait, c'est une enveloppe dans laquelle vous allez pouvoir choisir ce que vous allez mettre à l'intérieur. Et ce que vous allez mettre à l'intérieur, évidemment, ça dépend du risque que vous souhaitez prendre, mais aussi de votre volonté de performance. Si vous voulez pas prendre de risque, vous aurez très peu de rendement. Si vous acceptez de prendre un peu plus de risque, vous aurez plus de rendement. La boîte à outils qui est le contrat d'assurance vie vous permet de faire un nombre d'investissements incroyables. Vous avez le fameux fonds en euros des compagnies qui est la partie sécurisée, c'est bien, mais franchement pour gagner de l'argent c'est quand même pas idéal. Après vous avez une multitude de fonds d'investissement, de véhicules collectifs dans lesquels vous pouvez investir, évidemment des fonds actions, j'en parle souvent ici, ça peut être sur des thématiques, sur des zones, donc des régions, des zones géographiques, ça peut être sur des types de taille d'entreprise cotée en bourse. Vous avez aussi des fonds qui sont des fonds obligataire, donc vous allez prêter de l'argent à des entreprises qui vont vous rémunérer avec un taux d'intérêt. Alors tout ça mutualisé dans des fonds, ça peut être intéressant dans certains contextes. Faut bien penser à la notation évidemment des sociétés à qui vous prêtez de l'argent, en tout cas des fonds qui prêtent de l'argent. Vous pouvez aussi investir dans de l'immobilier. Alors c'est moins tendance aujourd'hui, mais il y a eu un énorme succès des SCPI, des SCI. On le sait qu'on collectait des milliards et des milliards. Le goût pour l'immobilier des Français.
Passion de la pierre.
La passion de la pierre s'est exprimée aussi dans les contrat d'assurance vie. Donc, vous pouvez acheter de l'immobilier dit mutualisé à travers ces SCPI SCI. Et là, ça vous offre aussi un rendement qui parfois peut être intéressant. Vous pouvez acheter aussi des produits structurés. On en avait parlé ensemble. Les produits structurés qui vont, sur mesure, potentiellement vous apporter du rendement et des garanties en capital ou des protections en capital. Donc, si vous dites, moi, j'ai envie de faire 4,5% par an, ça me va très bien. Je veux que mon capital soit le plus protégé possible. Et je vais demander à mon interlocuteur de me créer ou de trouver un produit qui va être structuré par une banque et qui va m'offrir cette opportunité. Et donc, je ne veux pas le risque action classique ou le risque obligataire classique. Donc, comme vous le voyez, en fait, il y a vraiment la possibilité de faire une forme de mélange, si vous voulez.
Ce n'est qu'une enveloppe fiscale. Il faut le rappeler.
Il faut vraiment garder en tête, c'est une enveloppe fiscale et à l'intérieur, vous y mettez ce que vous voulez. Donc, pour celui qui aujourd'hui se dit « Oh, ma banque m'a vendu un contrat d'assurance vie et je gagne rien », je recommande d'appeler son banquier et de dire « Pourriez-vous me donner la liste des supports qui sont éligibles à mon contrat d'assurance vie ?» Il va vous envoyer une liste avec des codes ISIN qui parfois peuvent paraître compliqués. Donc, soit vous-même, vous faites des recherches et vous regardez l'ensemble des supports et vous vous dites « Tiens, celui-là, il a des bonnes performances, il m'intéresse, j'ai envie de le mettre dans mon portefeuille. » Et puis vous appelez votre banquier en disant « Écoutez, maintenant je veux prendre la main et voilà ce que je veux que vous mettiez sur mon contrat. » Soit finalement c'est un peu compliqué, ça prend beaucoup de temps, vous n'avez pas envie de passer un temps fou à regarder les différents fonds. Vous demandez du conseil, soit à votre banquier, soit à un conseiller en gestion de patrimoine qui en général connaît bien le sujet.
Xavier, un autre Xavier, on a deux Xavier qui nous ont écrit aujourd'hui. Là, c'est Xavier P. nous disait, dans le prolongement de notre sujet sur l'assurance vie de la première heure, qu'il est effectivement possible d'ouvrir une deuxième assurance vie dans un autre établissement pour se libérer de la problématique de transfert. Avoir deux assurances vie, 3, 4, 5, est-ce qu'il y a un chiffre maximum quel est l'incentive, quelle est la motivation d'avoir plus qu'on va dire deux assurances vie?
C'est justement ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est d'avoir deux pourvoyeurs, on va dire, de produits financiers. Donc, parce que parfois, souvent d'ailleurs, les banques, quand elles vous font ouvrir un contrat d'assurance vie, vous pouvez quasiment investir que sur les fonds de la banque.
Ouais.
Donc, c'est un petit peu limité. Vous voyez, si vous avez envie d'aller chercher des grandes maisons de gestion, des savoir-faire étrangers, des choses comme ça. Donc, vous pouvez dire, à côté de ça, j'ouvre un contrat d'assurance vie auprès d'une plateforme qui est beaucoup plus ouverte, qui va me faire ce qu'on appelle de l'architecture ouverte, et je vais aller chercher des fonds qui m'intéressent. Mmh. Moi, je vois, par exemple, les fonds que j'ai sur la santé et sur la robotique, ils sont pas éligibles dans les contrats d'assurance vie des banques, tout simplement parce qu'on est une petite société de gestion entrepreneuriale et donc on compte pas pour eux. Et bien, il y a certains contrats où c'est possible. Donc l'intérêt, c'est ça. Et après, je n'ai pas en tête de chiffres limitants sur le nombre de contrats d'assurance vie qu'il est possible d'ouvrir.
Bon, à part faire évidemment attention aux frais qu'on paye, parce que autant d'assurance veut dire autant de frais différents.
Oui, alors oui, autant de frais différents, oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, les frais, le sujet des frais, c'est surtout, en fait, il faut limiter les frais d'entrée parce que c'est ce qui fait qu'à chaque fois que vous mettez des sous, il y a une quote-part qui s'en va.
Un petit péage.
Voilà, un petit péage. Et donc, du coup, quand vous le faites fructifier, c'est plus embêtant. Après, les frais du contrat sont globalement, c'est-à-dire chaque année, vous payez des frais, c'est à peu près harmonisé en France.
On parlait tout à l'heure d'assurance-vie avec le patron de Nalo, plateforme digitale, qui nous racontait l'histoire d'une de ses prospects, ou en tout cas quelqu'un avec qui il échangeait, qui avait 1,5 million d'euros d'actifs dans une banque où elle était cliente depuis 25 ans et son assurance vie était composée de 37 fonds.
Ah oui.
Et donc, on plaisantait en disant que c'était plus de la diversification à ce moment-là, mais de l'éparpillement. 37 fonds.
Oui, 37 fonds, c'est beaucoup. C'est un choix. Bon, disons que c'est pas ce qui me choque le plus. Ce qui m'aurait le plus choqué, c'est que depuis toujours, elle soit en fonds en euros, par exemple.
Ouais.
Ça m'aurait plus dérangé qu'une énorme diversification. Oui, 37, c'est pas mal quand même.
Ah oui, et donc je vous dis pas, voilà. Et les frais de gestion du contrat, c'était à peu près 3,3, je crois.
Ah oui.
Donc ça faisait presque 50 000 euros de frais annuels.
Ah oui. C'est ça. C'est sympa pour le banquier ou pour l'assureur, mais c'est moins sympa pour le client. Il y a un petit point sur la question des 70 ans, quand même, qu'on n'a pas évoqué.
Allez-y, rappelez-nous.
Hein, juste très rapidement, en fait, il faut ouvrir son contrat d'assurance vie avant 70 ans, parce que après vous avez moins d'avantages fiscaux en termes sur la taxation sur la plus-value, et puis même pour la partie successorale, vous avez moins d'avantages sans droit de succession pour vos bénéficiaires. Donc surtout, avant 70 ans, ouvrez un petit contrat, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça vaut le coup de le faire.
On aurait pu débattre de cette proposition de loi Husson-Montgolfier, qui date de 2023, qui tentait d'apporter des solutions, en tout cas qui ouvrait la réflexion sur le sujet de la transférabilité des contrats d'assurance-vie. On le rappelle, aujourd'hui, on ne peut pas transférer son assurance-vie.
Alors,
moi, je reste en bloc dessus depuis 10 heures.
En fait, c'est des politiques que vous devriez inviter pour parler de ça, parce que c'est un sujet politique. Et ça mérite une grande conversation, même autour du financement de la dette de l'État. C'est-à-dire, posez-vous de la question, qui finance la dette de l'État français ? Qui sont les investisseurs de long terme en France, et pourquoi est-ce que ces fameux transferts de contrats d'assurance vie ne sortent pas? C'est-à-dire, politiquement, il n'y a pas de, c'est pas acté. Donc je pense que tout ça, c'est un intérêt collectif. C'est pas particulièrement une théorie spécifique, mais c'est l'intérêt des assureurs qui est pas de transférabilité, et c'est l'intérêt de l'État de chouchouter les assureurs.
Mais vous avez raison, Alice Labou, présidente d'Etrecento Asset Management. On va inviter des politiques pour en discuter de ce sujet. On parle souvent de Paul Midi, qui fait pas mal de choses qui nous impacte directement en tant qu'investisseur, mais c'est vrai, peut-être qu'on pourrait lancer la perche aussi à Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient à la tentative de manœuvre de cette réforme de l'assurance, enfin de la transférabilité des contrats. Merci Alice pour ce point très éclairant sur l'assurance vie, sur ces mythes à déconstruire, sur l'argent qui n'est pas tout court bloqué dans l'assurance vie, sur les frais et effectivement la fiscalité. Puis vous avez retenu, il y a 8 ans pour avoir une fiscalité allégée, mais il y a surtout cette deadline des 70 ans pour que ce soit intéressant, cette enveloppe fiscale. Merci beaucoup Alice Labou et l'équipe de Trecento Asset Management. Vous restez avec nous, on va continuer de parler de vos finances personnelles. Un autre mot-clé qui vous est cher, nous allons parler de l'or, et plus précisément de l'envolée des prix de l'or. Pourquoi est-ce que ça grimpe en flèche alors qu'on a l'impression que toutes les explications classiques, hein, l'inflation, les taux réels et même l'aversion au risque ne semblent pas tout à fait expliquer cette croissance, cette envolée du prix de l'or. A tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir. Investir autrement.
Dans quelques secondes, on va faire le point sur l'or, de l'envolée des cours. Mais je voudrais partager quelques réactions d'auditeurs avec vous. On a le débat qui est ouvert sur comment sont rémunérés les CGP. Est-ce que la commission, c'est si une bonne idée que ça? Et je salue notre auditeur Julien, qui est lui-même CGP et qui nous propose de réagir à l'antenne. On va essayer de l'appeler demain ou après-demain, parce qu'il nous raconte comment il fonctionne avec des honoraires de conseil et une part de rémunération à la performance. Et donc, on peut réfléchir à la mutation du métier de CGP. C'est un sujet peut-être qui vous touche en tant qu'investisseur particulier qui est conseiller. Ça peut être au programme des prochains jours si ça vous dit, cher auditeur. Et puis on a Avner, malheureusement, à qui on n'a pas pu répondre dans le direct avec Alice. Avec Alice Labou de Trecento AM, nous parlons de l'assurance vie avec elle, qui nous demande si c'est intéressant pour un jeune actif d'ouvrir son assurance vie. Je pense que la réponse, Avner, c'est oui, parce qu'il s'agit déjà de prendre date. Donc aucune limite, aucune mauvaise raison de ne pas ouvrir son assurance vie dès que c'est possible pour vous en tant qu'investisseur particulier. Je vous donne le programme de demain en attendant d'aller faire notre point sur l'or pour finir cette émission. Demain, nous serons en direct comme tous les jours. Ce sera mardi. Donc nous serons avec Jean-Marc Daniel, notre économiste en chef qui définit chaque semaine, vous le savez, des mots du vocabulaire financier et fiscal. Demain, nous allons définir ce que ça signifie travailler au noir. Aux origines de cette expression, travailler au noir. Et puis demain, c'est mardi, nous serons avec l'ami Christian Fontaine de l'équipe du Revenu. Il sera avec nous pour discuter de ce qu'on peut faire, de ces primes d'intéressement et de participation. Vous le savez, d'ici quelques jours, nous sommes peut-être déjà dans vos entreprises dans cette période où les employeurs, les entreprises versent les primes d'intéressement et de participation. Où les placer ? Combien placer ? Est-ce qu'il faut rester dans son PEE, dans son perco d'entreprise, ou est-ce qu'il faut aller chercher d'autres véhicules, d'autres endroits pour placer cet argent ? Ce sera au programme de notre émission de demain. Si vous voulez réagir et participer à ces sujets qui vous concernent, eh bien c'est très simple. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr, mais c'est aussi sur LinkedIn où je vous lis en direct. Vous êtes très nombreux à m'écrire depuis ce matin. Merci pour vos questions, notamment nos deux Xavier qui ont participé à notre antenne. Je vous précise qu'on va également faire le point sur le Bitcoin et le halving qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi avec Amaury d'ici quelques minutes. Mais avant ça, nous allons faire un point sur l'envolée de l'or. Pourquoi les prix de l'or grimpent-ils en flèche? Et pour faire ça, nous sommes en duplex depuis la Suisse, double invité de Suisse aujourd'hui avec Jean-François Faure. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur du groupe Au coffre. Avec vous, on va essayer d'y voir plus clair sur cette envolée du prix de l'or. D'abord, vous donnez peut-être le cours de l'or. Alors, on se parle, l'once se négocie autour de 2374 $. L'once, Jean-François, votre éclairage sur ce que fait l'or depuis quelques semaines, dites-nous.
Oui, alors l'or a beaucoup réagi aux quelques annonces qu'on a pu avoir depuis ces dernières semaines et aussi les événements. Donc tout d'abord, l'or avait beaucoup réagi aux potentielles annonces d'une potentielle baisse des taux d'intérêt, qui d'ailleurs aujourd'hui est remise en question. Mais le simple fait d'annoncer cet événement, même en creux, a été suffisant pour franchir des seuils techniques. Et ces seuils techniques, qui étaient finalement des formes de plafond de verre, ont été traversés. Et depuis, voilà, on évolue dans ces zones qui sont assez élevées. Ensuite, là-dessus, se sont rajoutés des attentats, se sont rajoutés des bombardements. Et on sait que l'or est très sensible aux effets, aux impacts géopolitiques. Et donc là, clairement, il a beaucoup surréagi. Et aujourd'hui, peut-être qu'on a on est dans des zones qui sont peut-être très élevées et qui pourraient annoncer des consolidations prochaines.
Mais on a l'impression, Jean-François, quand même, que les fondamentaux, les classiques qui expliquent généralement l'envolée du cours de l'or, là, fonctionnent pas tellement. Ok, il y a de l'inflation. Ok, il y a ces taux que vous évoquez. Mais il n'y a pas tout à fait que l'aversion au risque qui explique que l'or monte autant. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi une manière d'appréhender les marchés actions qui fait que on a moins envie d'y aller et du coup on se tourne vers l'or?
Alors c'est pas qu'on a nécessairement moins envie d'aller vers les marchés actions. D'ailleurs, les bourses sont là pour nous montrer que justement ces marchés sont quand même très soutenus. Mais par contre, il y a une aversion au risque sur les marchés actions. On sait que les cours, le CAC 40, Dow Jones, etc. sont aujourd'hui quand même assez élevés, sur des niveaux que certains même peuvent considérer comme trop élevés. Et pour autant, les cambistes ne veulent pas louper les bonnes affaires. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se protègent. Et en même temps qu'ils continuent d'acheter des actions, et la liquidité est là pour les acheter, donc ce serait dommage de ne pas en profiter, eh bien, en parallèle, ils se couvrent par de l'achat d'or. Et là, je parle de réaction humaine, mais même les robots de trading sont programmés aussi pour ce genre d'action. Et c'est aussi une des raisons qui dope le cours de l'or actuellement.
Il y a aussi, évidemment, les achats des banques centrales. Je vous donne un chiffre, c'est la Banque Centrale Indienne qui figure parmi les principaux acheteurs avec 19 tonnes d'or acheté depuis janvier. Je voudrais vous poser une question, juste Jean-François, pour finir ce point du lundi, si je puis dire, sur les ETF. On voit que les ETF or, c'est pas exactement des ETF, mais bon, bref, pour faire simple, n'ont pas attiré énormément de flux, ce qui suggère qu'on préfère plutôt s'exposer à l'or physique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Ben oui, en fait, les ETF, alors c'est un moyen extrêmement simple et pratique d'acheter de l'or, mais tout le monde sait que derrière les ETF, la contrepartie n'est pas de 100%. Et donc aujourd'hui, ceux qui deal un petit peu les fortes valeurs de l'or, et on parlait notamment des banques centrales, ce n'est pas du papier qu'ils veulent acheter parce que l'or, ils veulent l'avoir dans leur coffre-fort. C'est à peine caricatural, c'est exactement ça. Et donc voilà, on est là-dessus. Après, il faudra quand même faire attention justement à la surchauffe parce que on détecte déjà que dans certaines zones, le cours très élevé de l'or physique, notamment on le voit en Inde, peut calmer les ardeurs des acheteurs, notamment de bijoux, puisque c'est quand même 60% du marché de l'or reste quand même l'industrie joaillière. Et donc là, on est sur une surchauffe qui démotive actuellement les acheteurs, et donc ça pourrait être peut-être le point de départ d'une future consolidation.
Oui, vous nous avez parlé de l'Inde, mais on aurait pu rappeler aussi que c'est la Chine et la Pologne, dans le top 3, qui font aussi les banques centrales de la Chine et de la Pologne, qui font aussi évidemment, qui ont cet intérêt pour l'or physique. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François, on vous rappellera depuis la Suisse pour continuer à décrypter ces prix de l'or. On aurait pu parler de l'argent avec vous, si ça vous va. La prochaine fois qu'on se verra, vous nous parlerez peut-être
avec
un peu d'argent. Jean-François Faure, depuis la Suisse, président fondateur du groupe Au Coffre, avec nous sur BFM Business. Séquence à retrouver en podcast et en replay, comme l'ensemble de nos contenus, d'ici quelques minutes sur notre site et l'application. D'ici quelques minutes, ce sera Sandra Gandoin aux manettes d'Avec vous. Bonjour, chère Sandra.
Bonjour, Lorraine.
Le programme du jour.
On va parler de pression disproportionnée des managers. On va parler de formation linguistique en entreprise, aussi de comment l'IA peut améliorer la productivité de votre structure. On va parler aussi de licenciement, de primes de partage de la valeur. Et c'est quoi pour vous un salaire décent? On vous a posé la question, toutes les réponses, les conseils sont dans Avec vous. Vous nous posez vos questions à vous, avec vous at bfmbusiness.fr. On y répond avec nos experts.
Le programme d'Avec vous qui commence dans 5 minutes. Il a survécu au halving. Il est parmi nous ce matin. Amaury de Tonquédec prendra les manettes de BFM Crypto, le club, à 15h. Alors, j'ai plus d'eux.
Eh bien, ça a été fêté. Il y a beaucoup de personnes dans la communauté Bitcoin qui ont fêté cet événement, qui est maintenant plus un symbole qu'un événement d'ailleurs. À savoir, là c'est le 4e halving, il y en a 33 qui sont prévus en tout dans le code de Bitcoin, donc il en reste 29. Le taux d'inflation de Bitcoin est maintenant d'un peu moins de 1% par an, donc ça se réduit tous les 4 ans. Et prochain halving donc prévu pour l'instant en 2028. Et on se posera une question dans BFM Crypto Club à 15h, c'est pourquoi tous les halvings sont tous les 4 ans, parce que c'est chaque année bissextile, chaque année de Jeux Olympiques et chaque année d'élections américaines. Est-ce que ça a été fait exprès par Satoshi, le mystérieux créateur du Bitcoin ? Eh bien, on se posera la question, parce que peut-être que oui.
Tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs.
Absolument.
Réponse à 15h et puis demain chez nous pour investir pardon.
Juste avant
si vous voulez bien parce que je pense que ça intéressera nos auditeurs, demain vous viendrez nous donner la réponse à cette question. Merci Amaury de Tonquédec aux manettes de Tout pour Investir et surtout aux manettes de BFM Crypto, le club tous les jours à 15h et 21h30 et vous savez comme l'ensemble de nos programmes en podcast et en replay sur notre plateforme. Bonne écoute sur notre chaîne et à demain.
Tout pour investir sur BFM Business.